grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL.
Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête qui a un nom de char d'assaut et qui finira en Ukraine, Julie Leclerc.
C'est bon ça.
Une grosse tête qui, en général, préfère une générale au théâtre qu'un général à l'armée, Valérie Mérès. Une grosse tête très, très marquée par la triste actualité européenne, mais en football. Florian Gazan.
Bonjour.
Une grosse tête impayable quand il ne raconte pas d'histoire, Franck Ferrand. Une grosse tête qui fait de l'info en continu sur LCI et de la chanson en boucle sur RTL, Christophe Beaugrand.
Bonjour.
Et une grosse tête qui est passée des plateaux repas aux bouffes parisiens. Oh. Jean-Fi Janssen.
C'est très beau.
Vous avez vu là comme on a été sobre, Monsieur Gazan, juste avant l'émission.
Je ne vois pas du tout de quoi vous parlez.
On vous a pas parlé du... Nous, à l'OM, on vous a pas parlé du Paris Saint-Germain.
Ah, vous me parlez... Bah, je vous en parlerai peut-être demain, vous jouez ce soir.
Titoff m'a envoyé un petit message.
Ah bah moi aussi, vous vous rendez compte.
Tout Marseille était en joie hier soir.
Oui, c'est bizarre comme Marseille devient madrilène les soirs de Coupe d'Europe.
Ça, ils sont espagnols en fait, à
oui,
Marseille.
Espagnol. Marseille, Marseille,
Marseille.
Non mais il a été drôle, Titoff. Il m'a envoyé un message en disant, je crois qu'en fait, il devrait recruter des joueurs.
J'avoue que moi, hier soir, entre Neymar et Messi, c'était un couple tragique, Laurent, ma pièce.
Non mais franchement, ce Lionel Messi là qui a coûté un pognon fou, il faut rien au Paris Saint-Germain.
Ah oui, mais qu'est-ce qu'il est beau.
Vous devez confondre avec Ronaldo, vous.
Ah non, bah non, je suis pas conne, hein, quand même.
Jean-Fi, il est open. Dès qu'il y a un garçon avec qui monte ses cuisses.
En short, oui.
En short, il est content.
Ah oui, voilà. Je sais pas, je suis fait ici des shorts de foot. Alors, quelqu'un qui a un short de foot, il peut.
Alors, Bernard Mabille en short de foot.
Ah, il est beau.
Ça rentre pas.
Ça rentre pas. Un gros short.
Enfin, on peut tout dire de Lionel Messi, sauf qu'il soit beau, monsieur.
Mais vous savez, la beauté, c'est
on peut même plus dire qu'il est bon, alors je vais vous dire.
Ben, moi, je trouve qu'il a, quelque chose dans l'œil. Oui, dans l'œil.
Bon, tu parles. Faut aller chercher dans l'œil un petit truc.
Ah bah toi, c'est sûr que tu vas pas y aller. Hein.
Ah bah elle a son Gérard Leclerc depuis 70 ans, elle va pas en changer maintenant. Hein. Vous en êtes aux noces de quoi alors
avec... Alors, 40 ans, voilà. Ça fait quoi on s'est mariés en 81, faites le calcul.
Ouais, de toute façon, il faut au moins 50 ans pour avoir de l'or, mais avant c'est que des trucs de merde, c'est du crépon.
Ouais, du bois.
Non,
ouais,
les noces de perles déjà, moi.
Mais fait les noces de perles.
Oui, les noses de perles, c'était il y a 10 ans.
J'avais mangé une choucroute.
Non, mais écoute, mes invités, attendez, les enfants,
c'est
arrêtez.
Les noces de perles, il y avait une ambiance.
C'est le jour où il paraît d'ailleurs que Titoff couche plus souvent avec sa femme pour avoir des gaz russes.
Alors, vous voulez que je vous
non.
Quelle horreur.
Non,
mais...
Qu'est-ce qu'elle a ?
Mais non, avec les perles, c'est dommage d'avoir gâché.
Mais enfin, écoutez, vous êtes à un âge où il ne doit pas se passer bien autre chose sous les draps que... D'abord, vous dormez encore ensemble ou pas ?
Bah évidemment, l'un sur l'autre.
L'un sur l'autre.
Il n'y a plus l'un dans l'autre.
Ouais, ils ont des...
et qui est dessous ?
Nuance.
41 Couchement. Ans que vous dormez ensemble.
Oui, oui, oui.
Oh là là.
C'est bien.
Il
n'a
jamais
c'est
découché,
génial.
Franchement.
Ah bah non, bah non.
Et vous avez déjà fait des plans à plusieurs, des trucs
mais non.
Ah non, le troisième
avec Maryse Gildas. Et votre fille Evelyne Leclerc, ça lui fait quel âge?
Mais non, mais elle c'est avec un cul.
Une première citation donc pour Antonio Adam qui habite Germignet dans la Haute-Saône, très facile à la première, c'est du grand classique.
Oula.
Qui a dit de tous ceux qui n'ont rien à dire, les plus agréables sont ceux qui se taisent.
Coluche.
Coluche, bonne réponse. De Florian Gazan. Allez. Ça, c'était pour nous mettre un petit peu en forme, mais plus difficile, la suivante pour Nicole Provost, qui habite Chatou, dans les Yvelines, qui a dit « La diplomatie sans les armes, c'est de la musique sans les instruments.
Oh. » Poutine.
Pour être Bismarck.
Eh bien, c'est Bismarck.
Oh,
bonne réponse de Franck Ferrand.
C'est le genre.
Ah oui, c'est le genre. Hein,
alors, ce qui est Bismarck. Formidable, c'est qu'il ne savait pas que c'était lui, mais c'est le genre de Bismarck. Ouais, ça, c'est magnifique.
Vous pouvez nous rappeler Bismarck, la carrière,
un
le parcours.
Affreux personnage qui nous a valu bien des guerres et bien des malheurs. Il est l'artisan de l'unité allemande. C'est lui qui a eu l'idée, ce chancelier de fer, qui a eu l'idée de réunir toutes les petites principautés allemandes pour en faire un grand empire qui ensuite nous a emmerdés pendant 100 ans.
Ah oui, mais quand même, donc il a réussi pour son pays.
Ah, mais il a parfaitement réussi. Lui. Ah oui.
Otto, c'était son...
Otto von Bismarck.
Otto.
Bismarck, beaucoup de talent, Bismarck. Difficile à habiller, mais beaucoup de talent.
Une autre citation.
Grosse moustache. Un peu ruplé, un peu rondouillard.
Potelé.
Ah, moi je n'aime que les gens extrêmement maigres.
Bismarck, il est en forme de B, c'est inhabillable.
Pour Valérie Larve, qui habite.
Elle deviendra papillon.
Vous parlez de Valérie Pécresse?
Non. Elle habite Nevers, dans la Nièvre, qui a dit « Le cerveau de l'homme a deux hémisphères, une couille gauche et la couille droite. »
Alors, c'est moi qui l'ai dit.
Mais c'est une actrice.
Ah bah oui, tiens.
Vivante. De votre génération, d'ailleurs, Valérie.
Josiane Balasco,
Carole Bouquet.
Jeanne Moreau. Actrice de cinéma.
Actrice de
Jeanne Moreau. Jeanne Moreau.
Enfin. C'est sa génération, Jeanne Moreau.
Ah
non, mais ça ne me dérange pas. C'est Jean-Fille qui a dit ça.
Oui.
Et Jean-Fille passe son temps à me dire « Je suis vieille et moche. » Alors je me dis que bon, autant que ça soit lui qui le pense, et que...
C'est Charlotte de Turquie.
Je n'ai jamais parlé de couilles. Que les choses soient bien claires, monsieur.
Non, c'est une actrice née en 1960.
Elle est toujours vivante.
Toujours vivante.
Brigitte Lahaie.
Brigitte Lahaie, non.
Mathilde Amey,
ben non. Une actrice un peu féministe.
Plutôt rigolote.
Alors rigolote, est-ce que c'est le mot? Elle a joué dans des comédies, oui.
Cinéma, plutôt.
Dans des drames, on la voit un peu moins, beaucoup moins même depuis quelques années, mais cinéma et théâtre, oui.
Françoise Fabian ?
Mais elle a commencé au cinéma, en tout cas. Françoise Fabian.
Bah, elle est plus âgée que Valérie.
Enfin, Françoise Fabian.
c'est Jean-Philippe qui m'a soufflé cette connerie.
Denise Grey.
Lino Renaud.
Sarah Bernard.
Jeanne Calment, peut-être.
Sarah Bernard.
Je joue une jeune femme amoureuse au théâtre, alors arrêtez.
Un rôle de composition.
Oui, moi je joue bien homosexuel, ça n'a rien à voir.
Un jeune homosexuel.
Une actrice de théâtre. Elle a joué avec Bernard Tapie au théâtre, d'ailleurs.
Chantal Latsou.
Non.
Nicole Calfon.
Non.
Ah oui, pourtant, ouais.
Alors.
Elle a un frère, mais dont elle n'aime pas trop parler.
Agnès Soral.
Ah, oui. Bonne réponse. Excellente réponse de Christophe Beaugrand. Oh, une question dont la réponse était dans le Figaro ce matin, donc j'imagine quand même que
tous les jours
vous saurez répondre, puisque ça y est, on a découvert un navire qui était resté prisonnier des glaces.
J'ai lu l'article.
Depuis 1915, comment s'appelle ce navire ?
L'Endurance,
voyez.
Alors c'est phénoménal cet article, parce qu'il est parfaitement conservé, ouais, visiblement.
Mais c'est beaucoup déplacé avec les glaces, hein, c'est incroyable.
C'est passionnant cette histoire.
C'est passionnant.
Effectivement, c'est un bateau qui était parti pour faire la traversée, d'ailleurs le premier bateau à faire la traversée d'Antarctique. Mais ils n'y sont pas arrivés au fond.
Non.
Ils ont été bloqués par...
Enfin, ils sont arrivés au fond, mais pas de la bonne façon.
Ils sont arrivés au fond, pas les marins, tous été sauvés.
Le bateau a été bloqué par la glace finalement qui s'est mise autour du bateau, ils ne pouvaient plus avancer. Ils ont voulu attendre la fonte des glaces.
Et on vient de retrouver le bateau quasi intact. Moi, je vais me mettre la gueule dans le frigidaire parce que...
C'est ce qu'a fait Walt Disney.
Non, c'est vrai que c'est incroyable quand même. Ouais. Le bateau est quasi intact. Il vient d'être retrouvé. On a des photos sous-marines. Enfin, quand je dis sous-marine, rien à voir avec la candidate.
N'est-ce pas?
Oui, monsieur Ruquier. Oui.
Sous-marine, il y a Zemmour. Il y a Pécresse.
Et il n'y a plus Marion. Voilà.
Il faut dire que là, si on a réussi à retrouver le bateau, ça c'est quand même évidemment moins rigolo, c'est parce que évidemment les conditions cette année ont été bien plus possibles et favorables que les années précédentes pour le retrouver, puisque le mois dernier a vu la plus faible étendue de glace de mer antarctique jamais enregistrée, ce qui a permis évidemment aux recherches d'aller jusqu'à cette épave.
Mais là, avec le réchauffement climatique, on va découvrir plein de trucs qui vont remonter comme ça.
Ah oui.
Mais ils remontent pas.
Ça va pas être le seul bateau. On va peut-être revoir Katusha.
Il y a Ben Laden qui va revenir.
Dupont de Ligonnès. Ah oui,
le docteur Godard.
Tout va nous revenir à la gueule. Jean-Claude Bourret, enfin bon.
Alain Colas.
Et l'argent de la 5.
Ça, non.
À l'argent de la 5. Ça, ça a fondu. Un hommage à quelqu'un qui vient de nous quitter à l'âge de 90 ans et qui était né au Havre et qui avait joué D'Artagnan à la télévision. De qui s'agit-il ?
Dominique Paturel.
Dominique Paturel, excellente réponse de Valérie Mérès.
La voix de J.R.
Eh oui, alors la voix de J.R.
Mais Hannibal, pas... l'agence touriste.
Parce qu'il a fait beaucoup de voix. Ouais.
Exactement, David Vincent dans Les Envahisseurs. Ouais. Ah, oui. Effectivement, Hannibal Smith dans l'agence touriste.
L'agence touriste, c'est vraiment la dernière chance au dernier moment. Les mauvais coups des truands, l'agence les règle au comptant.
J.R., il avait fait la voix évidemment de J.R.
Ton univers incroyable, glorifie la loi du plus fort.
Il avait fait la voix générique de la série Capitaine Flamme.
Capitaine Flamme, tu n'es pas de notre galaxie, mais du fond de la nuit, Capitaine Flamme.
Un bel hommage à Dominique Paturel.
Il avait une voix extraordinaire.
J'avais oublié qu'il était né au Havre. Et maintenant, c'est, je me souviens que quand j'étais jeune, on donnait les noms des personnalités qui étaient nées au Havre. Et à chaque fois, il y avait le nom de Dominique Paturel qui revenait. Il a surtout travaillé, c'est vrai, pour la télévision dans des séries. Il a joué D'Artagnan. Il a joué
vraiment un nid de talent, le Havre.
Dans La Gardère.
Mais un petit nid, alors.
Un nid de talent.
Un autre faillot. En tout cas, voilà, il vient de mourir à l'âge de 90 ans. Une grande vedette de la télévision, une voix effectivement mémorable, la voix de J.R. et la voix de David Vincent dans Les Envahisseurs.
Il ça, les a vus. Ouais.
David Vincent les a vus.
C'est génial.
C'est comment le générique déjà des Envahisseurs ?
C'est que de la musique.
C'est que de la musique.
Ouais.
Comme ça un petit peu.
Oh là là, j'ai eu très très peur.
Ça donne envie.
J'ai cru qu'Ariel Dombal venait d'arriver.
Je rentre chez Franprix.
Une question pour Anthony Roussel qui habite Bordeaux maintenant. Quel est le nom de la compagnie aérienne russe la plus importante du pays?
Aéroflot.
Quoi? Oui, Aéroflot.
Ah, j'ai cru que vous aviez dit Aérofiot. Je me dis.
Non.
Non, Aéroflot,
c'est la mienne de compagnie.
C'est Argentis,
Aéroflot, c'est mon enseigne à moi, c'est Aéroflot.
Mais vous l'avez vu, Poutine, avec toutes les hôtesses.
Ah, c'était magique.
Incroyable.
Et il a réuni des stagiaires hôtesses de l'air pour faire un point sur la guerre en Ukraine. On se demande pourquoi.
Et alors, ce qui est assez amusant, c'est qu'on a vu les photos de Poutine avec tous ceux avec qui il négocie depuis plusieurs semaines. Il est toujours à un bout de table et tous les autres sont à 40 mètres.
Oui.
Et là, en revanche, à table, il était entouré d'hôtesses de l'air, mais collé aux hôtesses.
Bah, même grande table, je crois, que celle avec lequel il avait rencontré Emmanuel Macron, sauf qu'il y avait effectivement une cinquantaine de personnes autour.
Vous auriez pu être invité, Jean-Fi.
Ben oui, oui, j'ai décliné, mais je pouvais pas y aller, mais oui, j'étais invité, en tout cas.
Il y avait que des femmes.
Pas vrai, il y avait deux pilotes avec eux aussi.
Ah pardon, oui, mais il y avait que des hôtesses, du coup.
Mais ils sont sympas, ils sont sympas à l'époque où j'étais hôtesse de l'air.
Ils sont sympas, les
gens d'Aéroflot, on rencontrait des équipages à l'étranger, c'était sympa. Et puis ils nous vendaient du caviar sous le manteau, c'est bien.
Comment ça, du caviar sous le manteau?
Eh ben, ils nous vendaient, ils arrivaient à l'hôtel, pour arrondir leur fin de mois, ils avaient toujours du caviar dans des petites glacières. Et ils nous vendaient à nous autres équipages. On achetait du caviar à moitié prix sous le manteau.
Bonjour, Français, t'en voulant un caviar pour le merci.
Moitié prix.
Oui. T'imagines, il a rencontré.
Si, parce qu'une fois, j'avais couché avec un pilote d'Aéroflot, il m'a donné une boîte.
Oui. Est-ce que tu as des votre capote?
Qui drague sur Grindr.
Votre capote.
Moi, donner caviar.
J'en fais.
Moi, donner caviar, échange sodomie.
Oui.
Oh ben, même sans caviar. Hein.
Non, mais j'ai honte. Avec cette actualité internationale.
C'est horrible.
L'autre, il nous raconte qu'il a été le premier à avoir été envahi par un Russe.
Et il le réclamait, en plus.
Tu le sens, mon grand esturgeon.
Comment ils étaient, les Russes, à bord, alors? Racontez-nous.
Les Russes qu'on avait, nous, à bord, c'était les nouveaux riches, là, les oligarques et les machins. Alors, en général, tu le vois tout de suite, parce que les filles, elles sont, mais c'est des sapins de Noël. Elles sont habillées en Dior, Hermès, tout ça. Rien ne va avec rien, mais tout brille. Hein, voilà. Et c'est toujours le mec, c'est toujours un gros porc. Un gros porc qui a le cul qui dépasse du pantalon, hein. Et tu dis, c'est pas possible qu'il se tape la Miss Monde, là, tu vois.
Et il a d'autres qualités, le monsieur. Et
alors, elle, pendant tout le vol, elle se fait les ongles, elle te parle mal. Et lui, il sort sa grosse bouteille de vodka.
J'ai leur peur.
Ils ont leur propre bouteille de vodka.
Comment ça, ils ont leur propre bouteille?
Ils achètent des grosses bouteilles de vodka au duty free, ils disent de rien. Et au fur et à mesure du vol, tu les vois qu'ils sont.
Et tu fais bien le russe bourré, hein.
Tu dis, c'est pas normal, on leur a pas servi d'alcool. Et il y a l'hôtesse qui dit, si, mais moi je comprends pas, ça fait 2 heures qu'ils me demandent des verres avec des glaçons seulement. Elle dit, je comprends pas, la glace, ça fait pas de mal comme ça.
Monsieur Le Drian vient de m'appeler, Jean-Yves Le Drian vient de m'appeler, monsieur Janssen.
Oui.
La diplomatie française vous remercie. Une question historique pour Monsieur Ferrand à destination de Lydia Torres qui habite Saint-Grégoire en Ille-et-Vilaine. C'est une bataille qu'il va falloir retrouver, une bataille qui date du 29 juin 1440. Je sais pas, ça vous dit quelque chose, ça, déjà, Monsieur Ferrand?
Ça pourrait être... oui, ça, donc c'est pendant la toute fin de la guerre de Cent Ans.
Azincourt.
Azincourt.
Ah non, c'est 1415, Azincourt.
Alors,
pardon. Sorry.
Oui, je vais quand même vous donner les belligérants,
voilà.
Si ça peut vous aider.
Belligérant.
Eh ben, c'était une bataille italienne, puisque c'est entre la République de Florence et le duché de Milan. Quel est le nom célèbre de cette bataille?
Ah, la bataille des poltrones sofa. Et voilà.
Authentica qualità.
Si. Et voilà.
Eh oui. Les Florentins d'un côté, les Milanais de l'autre, et c'est une célèbre bataille.
Ah. Elle est célèbre pourquoi?
Ah, bah, c'est toute la question.
Parce qu'il y a une expression qui en est tirée, non?
Non, pas une expression.
C'est le nom d'une ville, en tout cas, ça, c'est sûr.
Ah, bah, non. Effectivement, c'est lié à l'endroit où ça s'est passé.
Rimini?
C'est une ville toscane, vous voyez.
Rivoli?
Rivoli, non.
Sienne?
Sienne, non. Non, elle est connue.
Pise.
Alors, c'est une victoire des Florentins, hein, si vous voulez quand même quelques
par
précisions.
Par quel score?
Est-ce que c'est un 3-1?
C'est un 3-1.
Elle est connue parce qu'il s'y est passé quelque chose de particulier. On dit
non,
le...
elle est connue pour une autre raison.
C'est devenu une œuvre?
Ah, voilà.
Hernani.
Hernani, non.
Ah, Guernica.
C'est le nom d'une toile, donc.
Guernica, ça c'est Picasso, oui. Monsieur.
C'est l'Espagne. Est-ce que c'est le nom d'une toile?
Guernica? Ah,
c'est le nom d'une toile.
Ah, d'accord.
Et la toile, c'est simplement le nom de la ville ou c'est la bataille de...
Non, c'est la bataille de...
Ah, d'accord.
Rizzotto?
c'est la bataille, ça y est, ça me revient. Oui.
Bah, ça a pas l'air, là.
Allez, ouvre tes chakras.
Allez, Ferrand. Allez, Ferrand. Allez. Allez, Ferrand. Allez, Ferrand. Allez.
Allez, Ferrand.
Allez, Ferrand.
Pas Ferrand.
C'est la bataille peinte par Léonard de Vinci dans la salle d'honneur du Palazzo Vecchio de Florence.
On veut pas savoir comment il s'appelle.
Et ça s'appelle... Mais ça va me revenir. Hein.
Ferrand, Ferrand, on t'attend.
Ferrand, Ferrand, on t'attend. Ferrand, Ferrand, on t'attend.
Qui ne sente pas n'est pas historien. Qui ne sente pas n'est pas historien.
Rien. Qui ne sente pas n'est pas historien.
Rien. Oh, chiotte Ferrand, oh.
Non, il va
je
trouver.
Je suis sûr que ça va me revenir.
Faut l'encourager. Est-ce que ça va revenir avant 18h?
Mais effectivement, c'est
une... ça la question.
Ah, mais c'est pas une peinture par Léonard de Vinci dans la salle des machins, là.
Allez, Jean-Phi. Allez, Jean-Phi. Allez.
C'est une toile, d'ailleurs, qui n'existe plus.
Mais non, parce qu'elle est cachée par une autre qui a été faite depuis.
Et oui, elle a disparu, cette toile. Si vous avez regardé, d'ailleurs, l'excellente série, il est encore temps de la regarder en replay. Je le dis pas parce que c'est France Télé qui l'a faite, parce que je l'ai pas vue au moment où elle a été diffusée. Mais le week-end dernier, on a eu quelques jours de vacances. Donc, j'ai regardé cette série qui s'appelle Leonardo. Et c'est comme ça, d'ailleurs, que j'ai eu l'idée de la question.
Bien, ouais.
Très réussie, où on voit toute l'histoire de Léonard de Vinci, et à un moment donné, il est là avec, face à lui, Michel-Ange, ils ont chacun
c'est
un
ça,
mur.
C'est un concours, en fait.
Voilà, c'est un concours entre les deux. Léonard de Vinci est plus vieux que Michel-Ange, qui le nargue, et l'un et l'autre, finalement, ne termineront pas leur toile. Léonard de Vinci, parce qu'il s'est aperçu qu'il a fait une connerie, et que ça commence à gouliner un peu de partout.
Oui, assez frité. Oui.
Assez frité, et finalement, par respect, Michel-Ange ne terminera pas la sienne non plus, mais comment
c'est
ça
la bataille d'Anz. Ça me revient petit à petit, mais.
Il y a la première syllabe.
Il a dit Hans.
Il y a un Z derrière.
Non, il n'y a pas de Z. Mais il a le bon début.
Dancy.
Danduze.
On te demande le nom de la bataille.
Oui, mais elle va revenir. Elle va revenir.
Mais quand?
Non, mais attendez, là où vous êtes marrant, il y a des
auditeurs. Elle va revenir. Moi aussi, j'ai dit ça pour ma femme.
Elle représente deux gros chevaux.
Non, il y en a même une autre qui s'est barrée entre temps, d'ailleurs.
Oui, elle était cachée en dessous.
Et là, c'est 300 euros qu'on va devoir distribuer. Ouais.
Je ne connais que ça, mais j'ai oublié.
Mytho.
J'ai fait des conférences sur ce tableau.
D'accord, remboursé.
Ah, tout ça pour nous dire qu'il faut qu'on le paye.
Stéphane Bern, il le sait.
J'ai un trou, ce qu'on appelle un trou.
Mais même Laurent Deutsch. Laurent Deutsch vient de m'envoyer un SMS avec la réponse. Quelle honte.
J'ai toujours dit que quand on grattait bien en dessous de moi, il y a un Franck Ferrand, mais il est moins bon.
Peut-être qu'on va avoir la réponse dans la salle. Est-ce que quelqu'un connaît l'histoire de Leonardo?
Ah, il y a un monsieur au fond.
Une main au fond, monsieur Beaugrand.
Alors, quel est votre prénom?
Bonjour, Serge.
Bonjour, Serge, d'où venez-vous?
Marseille.
Oh, un Marseillais! Bien.
Ça y est.
Vous avez vu le match hier soir ou pas? Alors, est-ce que vous avez une idée de la réponse?
Écoutez, je ne connais pas vraiment la réponse, mais si ça commence par « en », je vais risquer « en com ».
Ah non, non, pas du tout.
Et monsieur, c'est bien marseillais.
Et monsieur Ferrand...
C'était bien d'avoir tenté.
Monsieur Ferrand vient de me donner la réponse par écrit.
Ça y est, il m'a fallu le temps.
Mais c'est arrivé trop tard. On perd quand même 300 euros. C'était bien la bataille d'Anghiari.
C'est ça.
La bataille d'Anghiari, peinte par Léonard de Vinci.
Les grosses têtes avec Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 15h30 à 18h sur RTL.
Toujours avec Valérie Mérès, Florian Gazan, Julie Leclerc, Franck Ferrand, Christophe Beaugrand et Jean-Philippe Janssen. À une question littéraire pour Daniel Jupin qui habite Chambéry, une question qui va me permettre d'évoquer en plus cette magnifique collection que sort le Figaro avec le concours de l'Académie Goncourt et de RTL, tenez-vous bien, où vous pourrez acheter tous les 15 jours...
L'almanach des grosses têtes ?
Non, un prix... Mais non. un prix Goncourt, les meilleurs prix Goncourt qu'on va rééditer, republier. Oh, 40 romans à découvrir ou à redécouvrir qui ont tous reçu... Le Goncourt, préfacé par un des membres de l'Académie, 3,90€ chaque volume, ça vaut pas le coup de se priver, par exemple, d'un livre d'Émile Ajar comme La vie devant soi, vous voyez.
Formidable.
Pourquoi j'évoque évidemment Émile Ajar et La vie devant soi? Parce que c'est le deuxième Goncourt qu'a reçu cet écrivain, puisqu'il avait déjà reçu, et c'est évidemment inédit dans l'histoire du Goncourt, ça tout le monde s'en rappelle quand on est grosse tête.
Oui.
Normalement, on ne reçoit pas deux fois le Goncourt, mais il avait pris ce pseudonyme d'Émile Ajar, puisqu'il avait déjà reçu le Goncourt précédemment, pour un autre livre, sous le nom évidemment de Romain Gary, qui était son vrai nom. Oui. Mais... De quel livre s'agissait-il?
La promesse de l'aube?
Non, la promesse de l'aube.
La vie devant soi?
La vie derrière soi?
Mais non, la vie devant soi, je viens de le dire, si vous écoutiez. Oh, mais elle n'écoute rien.
Les noces d'Alzheimer.
Elle est pas attendue.
Non, 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 mais c'est que je pense moi-même.
La vie devant soi, c'est Émile Ajar qu'on vous a dit.
C'est la vie derrière soi, voilà.
La vie devant soi, c'est en 1975. Et là, on est en 1956, quand, sous son vrai nom, Romain Gary, il publie et il reçoit le Goncourt pour
il y a pas le jardin dans le titre.
Non, il y a pas de jardin dans le titre. En revanche, il y a le titre dans un jardin.
Il y a un arbre.
Dupont de Ligonnès ?
Non.
Quelle horreur.
Alors, le personnage principal s'appelle Morel et il veut empêcher l'extermination des éléphants en Afrique. Et dans le même temps, en Afrique équatoriale française, l'idée d'indépendance commence à se répandre et lui va lutter en faveur des éléphants et la traque...
C'est pas Triste Tropique.
Non, et la traque dont il est l'objet de la part des autorités est écrite en parallèle des conflits d'intérêts entre les engagements des uns et des autres.
Donne-moi ta trompe.
Est-ce que le titre est lié à l'Afrique?
Saga Africa, ambiance de la brousse.
Le gros baobab.
Vous avez une lutte pour les éléphants d'un côté.
Et une, lutte, une dure lutte.
Et une lutte. Et une lutte pour l'indépendance de l'autre, vous voyez.
Voilà derrière les arbres.
Derrière les arbres, non. Non, 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 non. Non.
Est-ce que c'est lié à un arbre?
Non, c'est pas lié. Ah, mais pareil.
Les racines, peut-être. Ah. Il y a racines dedans.
Les racines du ciel.
Ah oui, les racines du ciel.
Les racines du ciel. Bonne réponse de Florian Gazan. On y est arrivé.
Exact.
On y est arrivé, mais ça n'a pas été facile quand même.
On est passé par le gros baobab.
Oui, ben voilà.
Pour Nadia, toujours. Nadia Boukoum, qui habite
Boukoum. On l'aime beaucoup.
Elle habite la Tremblade, qu'on aime beaucoup aussi. Bon, dites, un autre prix Goncourt, puisque je suis en train de vous parler de cette magnifique collection. Et le volume 1, c'est d'ailleurs Les Racines du Ciel de Romain Gary, que vous allez trouver en kiosque. Un jeudi sur deux, il y aura un nouveau Goncourt.
Ah, oui, dans tous les. Il faut lire vite, quand même.
Les bons. Ah, bah, 15 jours pour lire un Goncourt.
Ah, bah, oui, mais moi, enfin, moi,
oui, mais
moi,
on en a d'autres.
Moi, j'ai déjà 6 mois de retard sur Télé 7 jours.
Ah, oui. Et moi, j'ai pas fini le portrait codé dans Téléstar.
Ah, oui.
Parmi les 40...
Le portrait codé dans Téléstar.
Non, mais ce qui est intéressant, c'est que ça permet de réviser les Goncourt. Là, par exemple, il y a un auteur, moi, dont j'avais oublié, voire même ignoré le nom.
Ah bon, et vous pensez qu'on va le trouver?
Oui, parce qu'en revanche, on connaît son roman.
Ah bon.
Et il a obtenu le prix Goncourt en 1934 pour son livre publié aux éditions Albin Michel. Et cet auteur s'appelle... s'appelait Roger Vercel.
Ah oui.
Mais quel livre a écrit Roger Vercel?
Alors on le connaît parce qu'il y a eu un film probablement.
Absolument.
Voilà, quand même pas qu'on a lu des livres.
Alors le film, il est dans les années 50?
Non, ou... les années 90.
Ah voilà. Oui, voyez-vous.
Un long dimanche de fiançailles?
Non.
Ça racontait une histoire de guerre?
Mais effectivement, c'est une histoire de guerre, oui, et de la Première Guerre mondiale.
Le retour de Martin Guerre?
Ah non, oui, Première Guerre mondiale, ouais. Le retour de Martin Guerre.
Ah c'est bien, oui. Tu ferais une très bonne historienne.
C'est une histoire de poilu?
C'est pas poilus. L'histoire de Joyeux Noël et...
Alors oui, il y a des poilus là-dedans, effectivement. Non, c'est pas Joyeux Noël, le film de Christian.
La chambre des officiers.
Pensez à Christian Carion qui a réalisé ce film, mais non.
Il y a des enfants là-dedans?
Non, des soldats.
Des soldats,
pas
oui.
D'enfants.
Il y a des acteurs connus dans le film?
Oui, il y avait un acteur qui, on peut dire, ça a révélé cet acteur.
Capitaine Jean Conan.
Pardon.
Capitaine Conan.
Capitaine Conan. Excellente réponse de Christophe Beaugrand. Eh oui. Adapté par Bertrand Tavernier en 1996 avec Philippe Torreton, entre autres, mais c'est lui surtout qui effectivement a été révélé par ce film, Capitaine Conan. Qu'est-ce qu'il y a?
Il n'y avait pas Samuel...
Samuel Le Bihan?
Samuel
oui,
Le Bihan.
Mais c'est Torreton quand même qui a été...
Oui, mais quand même Samuel Le Bihan.
Oh bah, qu'est-ce qu'il y a?
Il est beau Samuel Le Bihan.
Écoutez, vos amitiés ne nous concernent pas.
C'est pas de l'amitié qu'elle veut, là. Hein.
Oh non, c'est du fantasme.
Ouais, ouais. Ah là, elle veut pas d'amitié du tout, hein.
Oh non.
Ah non. On n'est pas obligé de rester amis.
Vous avez une aventure avec Samuel Le Bihan.
Pas du tout. Non,
elle aimerait en avoir une.
C'est pas parce qu'on aime bien quelqu'un qu'on se le tape.
Ah bah moi si.
Ah bah si. Ça me semble évident.
Tant qu'à faire. Enfin.
En tout cas, Roger Vercel, ça c'est vrai que c'est un écrivain qu'on connaît moins et qu'on a oublié. On connaît mieux effectivement le titre de son roman qui a eu le Goncourt.
Je ne savais même pas que c'était adapté d'un roman d'ailleurs, Capitaine Conan.
Bah oui, prix Goncourt, Capitaine Conan. Et effectivement, Roger Vercel est le nom de cet écrivain, dont le, d'ailleurs, c'est un pseudonyme, le vrai nom était Roger Delphin Auguste Crétin, on comprend.
Ah oui,
un Capitaine Crétin.
Remarquez, on aurait peut-être gardé un peu plus en mémoire son nom si c'était appelé Crétin. Ouais. C'est pour premier crétin qui aurait eu un Goncourt, mais en tout cas, voilà que Roger Vercel sera désormais dans nos mémoires. Une question pour Florent Prince, qui habite Jarry dans l'Isère.
Il habite dans Jarry?
Il habite dans les Maurice?
Enfin, il y a du monde là-dedans.
Il y a beaucoup d'habitants. Il y a un recensement.
Pour quelle raison l'histoire a-t-elle retenu le nom du commandant Golikov?
Vous croyez que l'histoire l'a vraiment retenu?
Oui, oui, oui.
C'est un russe, hein, donc non?
Alors oui, c'est un russe. Non, oui.
C'est un russe de quelle époque? Guerre de Crimée?
Alors on est dans les années, au début du XXe siècle, et précisément c'est en 1905.
Est-ce que c'était le commandant qui commandait le cuirassé Potemkin?
Excellente réponse de Franck Ferrand.
Bravo.
Ouais, dès que c'est pas des tableaux de De Vinci, il est bon, hein.
La célèbre mutinerie, pouvez nous raconter ce qui s'est passé? Je crois qu'on leur donnait mal à manger.
Oui, officiellement, parce que après on sait pas exactement ce qui s'est passé, mais officiellement on leur servait des quartiers de viande avariés. On a d'ailleurs dans le film qu'on a tiré à Eisenstein, sublime film, on voit des morceaux de viande qui grouillent d'asticots, vous savez. Et donc l'équipage a refusé de bouffer ça, a dit non, on n'en veut pas. Et il se trouve que le commandant qui était un peu rigide, qui incarne le régime tsariste dans ce qu'il peut avoir de obligé l'équipage à manger. Et donc, ça a été une mutinerie à bord.
Oui, il a vu petit à petit la mutinerie gagner et le problème, tous les marins.
Mais oui,
il chantait encore un mutin.
mutin pour rien.
Et cette mutinerie a réussi. Et on a vu ces marins partir avec ce pauvre cuirassé qui ne savait pas où aller parce que, évidemment, ils ont essayé d'aborder à Odessa. Mais
d'où ma question, évidemment, vous l'avez compris.
Tout ça parce qu'ils voulaient manger un
lien
McDo.
Avec l'actualité, avec Odessa qui craint beaucoup pour son avenir. Et qui craint évidemment l'arrivée des Russes par la mer, puisque c'est une des stations balnéaires préférées des Russes en Ukraine, Odessa, qu'on appelle, et ça je l'ignorais, qu'on appelle parfois chez nous en France et peut-être en Europe, la Marseille de l'Ukraine, Odessa. Vous saviez ça, monsieur Ferrand ?
Oui, à cause des escaliers de sa structure, oui.
Alors voilà. Et alors, il faut savoir que le meneur, le chef des mutins, a été très vite tué d'un coup de feu, Grigori Vakulinchuk. Je vous le dis au cas où je poserai une autre question un jour.
Il a été peint par De Vinci, donc.
Allez, Vakulinchuk.
Mais il y a un lien entre, évidemment, cette question et la suivante, même si ça n'a pas l'air comme ça. Et la question suivante sera pour monsieur Emmanuel Félicie aussi. Qui habite à Langoiran, en Gironde. Quel acteur américain n'est pas au casting du film Les Incorruptibles de Brian De Palma, mais dont on peut voir le nom quand même dans le film?
C'est le nom d'une publicité, en fait.
C'est un lien avec Odessa.
Bravo d'avoir retenu cette indication.
Kirk Douglas.
Non, monsieur.
Il est né à Odessa.
Non, il n'est pas né à Odessa. Mais il y a un lien entre la question précédente et celle-là.
C'est un acteur d'origine russe ?
Non, un acteur américain.
Eh ben, il était dans le cuirassé Potemkin ?
En quelque sorte, il y était aussi. Pareil, on pourrait dire qu'il n'était pas au générique du cuirassé Potemkin, mais qu'on l'y voyait.
Alors attendez, on le voit ou on entend parler de lui ?
Son nom est évoqué.
Ah, son nom est évoqué parce qu'on montre un livre avec un nom. Il est homonyme de quel ?
C'est un homonyme.
Il est un homonyme.
Ma question est plus perfide encore que ça.
Ah bon, vous êtes encore plus perfide.
Ça veut dire quoi perfide ?
C'est le Landau qui descend.
Martin Landau.
Bonne réponse.
Ah oui, alors Martin Landau.
Ah oui, Martin Landau.
Vous êtes un malade.
C'est perfide.
Là, vous êtes vice, là.
Là, c'est psychiatrique.
Ah, oui, là, Martin Landau. J'espérais qu'il fût au générique, mais non. Il fait pas partie.
Dans plein de films, il y a Barbara Bain aussi. Il y a des baignoires. Non, mais, ça va. Mara dans son bain.
Sauf que dans Les Incorruptibles de Brian De Palma, c'est un hommage à cette scène.
Bien sûr.
Tournée, évidemment, au moins.
Eisenstein des années 20.
Voilà, 60 ans
du berceau
plus tôt.
Qui tombe sur les marches.
Pas le berceau, un landau.
Le landau.
C'est un landau. Parce qu'on est en haut des marches, effectivement, de ces fameux escaliers qu'on appelait les escaliers Richelieu.
Parce que c'est le duc de Richelieu.
Voilà, ça fait l'objet d'une question hier ou avant-hier ici aux Grosses Têtes.
Alors il faut prendre des notes.
C'est pour ça que je m'en souviens. Mais effectivement, cet escalier Richelieu, en haut, il y avait... Alors il paraît que c'est une scène totalement inventée par le réalisateur.
Oui, bien sûr, c'est une scène cinématographique.
Voilà. Mais en tout cas, il y a une femme qui est abattue, elle pousse un landau en haut des marches et là, le landau va dévaler le fameux escalier. Ah, oui. Ça dure 6 minutes dans le film, paraît-il, cette scène.
Ah, c'est
et on voit le bébé hurler, évidemment, parce qu'on lui a pas appris à descendre les marches en landau.
On l'entend pas, par contre.
C'est dur d'être bébé.
Et dans Les Incorruptibles, eh bien, Brian De Palma refait la même scène dans les escaliers de la gare de Chicago. J'ai une autre question qui concerne la Russie. Qu'est-ce qui s'est passé le 1er février 1990 à Moscou, que Libération, d'ailleurs, nous invite à revoir dans ses archives?
Mais c'était pas le coup d'État, là, de Yakovlev?
Non, c'est plus anecdotique, mais quand même intéressant et lié à l'actualité.
Est-ce que c'est le premier McDonald's qui aurait ouvert?
Excellente réponse de Christophe Beaugrand. Eh oui. Puisque McDonald's vient d'annoncer fermer temporairement ses 850 restaurants en Russie. Vous vous rendez compte, il y a 850 McDo en Russie.
Ah oui.
Et à l'époque...
Comme quoi, le grand méchant américain, hein, quand c'est des burgers.
Ah oui, en 90, c'était un événement. Vous imaginez le premier McDonald's fast-food américain débarquant à Moscou sur la Place Rouge. Fallait quand même le faire.
C'est un symbole incroyable.
Et ça date du 1er février 1990. J'ai une dernière question pour rester dans cette...
La bataille d'Anghiari.
Non.
C'est trop tard.
Pour rester dans cette géographie pour Laurent Durand, qui habite Pordic, en Côte d'Armor. Quel État a pour capitale Tiraspol ?
Oula, la Moldavie ?
Non, justement. Mais c'est une partie de la Moldavie.
La Transnistrie.
Oh, excellente réponse de Christophe Beaugrand.
Ah ouais.
La Transnistrie.
La Transnistrie.
C'est la fameuse zone soi-disant pro-russe que voudraient récupérer les Russes.
C'est
en
un
Moldavie.
État indépendant autoproclamé depuis la dislocution de l'URSS en 91 et c'est effectivement une région autonome de la Moldavie. On sait que les Moldaves voudraient être européens, mais évidemment pas cette région ou cet État indépendant, car c'est un État indépendant avec pour capitale Tiraspol et qui s'appelle bien la Transnistrie. Excellente réponse de Christophe Beaugrand, qui est une grosse tête, il n'y a pas à dire.
RTL, le livre du jour.
Ah, le livre du jour, croyez-moi, il va me servir. Hein. Je le dis tout de suite à son auteur qu'on va avoir au téléphone dans un instant, monsieur Dominique Mataillé, qui a fait carrière dans l'édition et le journalisme. Et Dominique Mataillé publie un dictionnaire savoureux des subtilités, ambiguïtés et incongruités de la langue française.
Oh, j'aime bien ça.
Alors là, autant vous dire qu'il y a à peu près 200 pages qui vont me servir régulièrement pour vous piéger, chère grosse tête.
Vous allez payer monsieur Mataillé pour utiliser comme ça, piller son travail.
Bon, bah, lui, il a fait aussi une compile de ce qu'il a trouvé ailleurs, hein. Faut non plus. Pardon, monsieur Mataillé.
On a donc une grosse
expérience sur les
pommes. Il a raccroché. Hein.
Mais son livre est passionnant. C'est un magnifique recueil de ces particularités qu'a la langue française. Et voici ma question. Pouvez-vous me citer un anacyclique qui n'est pas un palindrome?
Alors, le palindrome, c'est quand on lit de droite à gauche.
Dans les deux sens. Est-ce que c'est le nombre de syllabes, peut-être?
Non. Pouvez-vous me citer un anacyclique qui n'est pas un palindrome?
Il faut déjà savoir ce que c'est qu'un anacyclique.
Alors, autant vous dire que tous les palindromes sont des anacycliques, mais tous les anacycliques ne sont pas des palindromes.
C'est quand un mot commence ou termine par la même lettre, s'il y a un H aspiré, par exemple, c'est peut-être un anacyclique.
Non,
ça
n'est pas ça.
C'est lié au...
Et s'il y a un H expiré?
Non plus.
C'est lié au nombre de lettres?
Non, non plus. Et je vais vous demander, évidemment, de me donner un exemple.
C'est un mot ou une phrase?
Alors, ça peut... Non, c'est généralement plutôt un mot. Si c'est une phrase, c'est exceptionnel. Mais c'est plutôt un mot.
C'est un palindrome qui est synonyme.
C'est-à-dire...
Elle sait pas.
C'est dans un sens. Dans un sens, ça veut dire quelque chose. Et dans l'autre sens, ça veut dire la même chose.
Bah non, c'est ça, un palindrome, justement.
Oui, ça veut dire la même chose.
C'est le même mot.
Bob, c'est un palindrome.
Ah oui, Bob.
Et Laval.
Laval, c'est un palindrome.
Ce n'est donc uniquement une question de graphie, de façon d'écrire les choses.
Hein, non, ça. Absolument pas.
Est-ce que c'est une question de sens?
Une question de science?
De sens, oui.
Il y a toutes les lettres de l'alphabet.
Ah, oh mais ça n'a rien à voir.
Allez, quoi, Noah?
Alors, quand je dis de sens, je veux dire de signification, pas de sens dans le sens direction.
Dans le sens signification.
Ah, par exemple, alors ça y est, j'ai Laval, oui. Avaler.
Très bien. C'est une demande.
Qu'est-ce que je fais dans ces cas-là? Je lui dis oui.
Par exemple, Bob et Bobby.
Et Bobby.
C'est moi qui le suis, et Bobby. Non, vous voyez, vous savez, effectivement,
c'est un palindrome qui veut dire autre chose, comme Léon, par exemple. C'est un palindrome qui, dans l'autre sens, signifie autre
Noël.
Chose.
Excellente réponse.
Léon Noël.
Noël.
Excellente réponse de monsieur Beaugrand.
Mais très en forme.
Palindrome qui signifie autre chose.
D'une thalasso,
c'est un anacyclique.
Ah oui.
Est-ce que j'ai bien expliqué, Dominique Mataillé? Bonjour.
Oui, vous avez expliqué mieux que moi.
Alors, on va donner quelques exemples, et d'ailleurs, dans votre livre, vous en donnez vous-même. OK, KO,
c'est évidemment
un anacyclique. Pareil, oui. Et monsieur Beaugrand a donné un bon exemple avec Noël et Léon, ou Noé et Léon. Suez et Zeus,
par exemple,
ou encore tracé et écart.
Ah oui.
Voilà. C'est la différence entre un palindrome qui, lui, effectivement, a le même sens, qu'on le lise d'un côté ou de l'autre. On va dire qu'un palindrome, c'est un anacyclique amélioré, en quelque sorte.
C'est ça.
Exactement.
C'est un miroir, quoi.
On apprend des tas de choses dans votre livre. Par exemple, les mots valise, ce qui intéresse toujours RTL, vous le savez. ça, c'est quelque chose d'amusant, parce que j'ignorais, par exemple, que que le mot foultitude. Oui. Évidemment, on l'utilise parfois, une foultitude. Mmh. Un croisement du mot foule et du mot multitude.
C'est un hybride, ça.
Foultitude. C'est un mot valise. Foultitude.
Mais ça existe maintenant, ça?
Eh ben, c'est Victor Hugo qui, le premier, a utilisé le mot foultitude.
Ah, oui. Je pensais que ça n'était pas reconnu, ça.
Ah, si. C'est reconnu, c'est alors, monsieur Mathieu?
Bien sûr. Vous savez, c'est reconnu, c'est l'usage qui reconnaît la validité d'un mot, hein. Donc la langue s'enrichit en permanence que de cette façon.
Une cochonceté, par exemple.
Ah oui. Ah oui,
eh bien, évidemment, c'est un mot valise entre cochon et méchanceté. Et c'est Raymond Queneau qui a inventé ce mot cochonceté. Alors, il y a autre chose, moi, qui m'a passionné, parce que quand on est journaliste, et ce n'est pas Monsieur Beaugrand ou écrivain, Monsieur Ferrand qui me contrediront, ce sont les périphrases. C'est-à-dire ces astuces qui vous permettent de ne pas répéter trois fois le même mot dans un article. Les journalistes, évidemment, ont cette mission. Et c'est vrai que, par exemple, pour Marseille, au bout de la troisième
la
phrase...
Cité
la
fossée,
cité fossaine. Voilà, on dit la cité fossaine.
Elles sont des synonymes, en fait, des périphrases.
Ah bah oui, pour Lyon, on va dire la capitale des Gaules. Ouais, Rome, la ville éternelle. Venise,
la cité, la sérénissime.
La cité lacustre.
La cité des Doges.
La cité des Doges.
Jérusalem, la ville sainte, évidemment. Nancy, qu'est-ce qu'on dit pour Nancy?
La ville de la place Stanislas.
Non, la capitale.
De la Lorraine.
Des Ducs de Lorraine.
Oui, bien sûr. Voilà. Et par exemple, Laurent Ruquier, ça pourrait être le prince de RTL.
Oui, par exemple. Oui. New York.
Ou le beau gosse de Neuilly. Oh.
Christophe Beaugrand, le lescu.
De TF1. New York, la grosse pomme. Oui, Houston, la cité de l'espace. Ouais, Chicago, la ville des vents.
Los Angeles, la cité des anges.
Ah, c'est la ville de Julie Leclerc. Oh,
la cité des anges. L'os de perles.
C'est très réussi, c'est aux éditions Favre, et ça s'appelle « On n'a pas fini d'en parler », le petit dictionnaire signé Dominique Mataillé. Merci. Ah, une question pour Karine Feuille, qui habite Triel-sur-Seine dans les Yvelines. Question qui va nous emmener à la fin du 19e siècle. En juillet 1890, il est victime d'un accident de fiacre à Paris, alors qu'il se rend
chez
un ami.
Pierre Curie.
Pierre Curie, non. C'est vrai que Pierre Curie a été aussi victime d'un accident, on va dire, de la ville. Mais là, il s'agit d'un liégeois. Et d'ailleurs, on lui a...
Oh, dis donc, alors hein, allez, qu'est-ce que c'est ballot. Le fiacre, on vient jusqu'à Paris pour se prendre l'accident de fiacre. Hein, alors. Alors, j'en suis décédé. Ou pas,
oui,
je, me rappelle plus.
Je me suis retrouvé chocolat.
Ou alors j'ai juste eu un problème à la jambe, peut-être.
Ah non, il en est mort.
Ah,
oui.
J'en suis décédé. Ah oui, je ne me rappelle plus.
Si vous aviez lu La Croix cette semaine.
Oh, je ne sais pas, en ce moment, je ne le reçois plus.
Eh ben oui, moi j'adore. C'est un très bon journal, La Croix. Qu'on soit croyant ou pas, c'est un très bon journal.
Mais vous avez le temps de lire tout ça, Laurent, ça me fascine.
Il y a une page entière dans La Croix, hier, à propos du bicentenaire de la naissance. Ah. De celui qui est donc mort à Paris, mais qui était...
Qui est mort à 69 ans.
Liégeois.
C'était un artiste ?
Un artiste, oui.
Un peintre ?
Un peintre, non.
Un sculpteur ?
Un sculpteur, non plus.
Un musicien ?
Il est mort à 67 ans.
Un influenceur ?
Un blogueur.
Ah bah oui, puisqu'on est en 22, bon, admettons. Oui.
67 ans, il n'avait pas encore 68.
Ah. C'était un journaliste de l'époque ?
Un journaliste, non.
C'est un compositeur ?
Un compositeur, oui.
Ah. Voilà.
Musicien, compositeur.
Belge.
Belge, oui.
Ça n'est Richard Lederman.
Ce n'est pas le grand Jojo, alors.
Liégeois, donc, comme je viens de vous le dire. Et sa ville natale, Liège, lui rend un hommage.
Oh, oui, je me suis gaufré un accident.
À travers un circuit de visite.
Et il vivait à Paris, en fait.
Alors oui, à la fin de sa vie, il était à Paris, évidemment.
Claude Barzotti.
Il a été même... non, mais il a même été naturalisé français.
Alors, on se rappelle qu'il est belge quand on parle de lui
quand
ou
il est mort, je peux même vous dire, ça faisait 20 ans qu'il était naturalisé français. Il a été naturalisé.
Pierre Bachelet, en ce temps-là, j'avais 20 ans.
En 1870.
J'avais 20 ans depuis 20 ans.
Jean-Yann disait de lui qu'il valait mieux avoir un âge précis que le sien.
Comment?
Ah bon? Hein? Oula, c'est compliqué ça.
Je peux pas vous aider plus que ça. Si vous connaissez l'œuvre de Jean-Yann, vous pourrez facilement trouver. Prends, tant pis pour vous.
C'est pas Hérode?
Un âge?
T'es vu comme Hérode?
Non.
Un âge canonique?
Non.
Je comprends pas. Du genre Mathusalem.
Son nom veut dire quelque chose?
Comment ça, son nom veut dire quelque chose?
Son nom,
c'est deux prénoms, pour tout vous dire. Il avait un.
Comme Éric Jean-Jean.
Il avait un prénom et un. C'est trois, ça.
Oui, c'est vrai.
Il avait un prénom et son nom de famille était aussi un. Un prénom.
Ah, Émile Louis ?
Non. Alors, si vous allez à Paris, vous allez peut-être trouver boulevard Saint-Michel, une plaque.
Ah, César Franck.
César Franck.
Oh, ah, oui. La réponse. Mais dis donc, Laurent, vous voulez dire César comme Jules César, on l'appelait Jules César, il mettait pas de falzard pour qu'on voit ses belles jambes, ses jolies jambes,
je préfère
le superstar.
Je préfère citer Jean-Yann qui disait « Il vaut mieux avoir l'âge de César Terre que l'âge de César Franck ».
Ah là là,
c'est
une
phrase célèbre de Jean-Yann.
Oui, oui, oui. Moi je pensais au grand Jojo.
Ah ben, mais rien à voir avec le grand Jojo. Un peintre maintenant, il faut retrouver le nom.
Ça, c'est ma partie.
D'un peintre pour Clément Spandel, qui habite Réaumur. Il s'agit d'un artiste peintre dont on publie à nouveau une biographie, mais une biographie célèbre, puisque c'est l'écrivain Francis Carco qui avait publié à l'époque cette biographie, et les éditions Grasset ont décidé de la rééditer. Un peintre évidemment célèbre.
Peintre moderne.
Un peintre sur la butte Montmartre.
Utrillo.
Utrillo, excellente réponse. Maurice Utrillo, Momo, comme on l'appelait.
Momo, oui.
Momo de Montmartre. Qui était le fils, d'ailleurs, d'une autre artiste peintre célèbre.
Suzanne.
Valandon.
Valadon. Ah, soyez précis.
Hein. Oui. Oh, bah ça va, vous, là. Hein. J'ai dit Valandon au lieu de Valadon.
Ah, oui, mais...
Et Francis Carco, ça vous dit quelque chose?
Oui. Ah, c'est l'homme de la gouaille, quoi. Voilà.
Et aussi d'une chanson, je me souviens, que Pierre Bénichoux adorait interpréter ici, qui s'appelait Le Doux Caboulot. Ça vous dit quelque chose,
c'est
ça?
C'est le genre, oui.
Le Doux Caboulot. Pour un petit hommage à Pierre Bénichoux.
Oui. Le Doux Caboulot fleurit sous les branches et tous les dimanches plein de populos.
Vous écoutez toujours Fun Radio, on se retrouve après la pub. Une question pour David Doucet de Villers-sur-Mer dans le Calvados. Il s'en vend un toutes les 8 secondes, oula, si on en croit un article du Parisien publié cette semaine. Mais quoi donc?
Un vibromasseur.
Alors, en France, hein, c'est en France, il s'en vend un toutes les 8 secondes.
Est-ce que ça se mange?
Non, ça ne se mange pas.
Est-ce que c'est pour les enfants?
Les enfants, non. Pas
est-ce que c'est un outil? C'est un objet électrique?
Un objet électrique, non.
Est-ce que ça se branche?
Ah non, non. Chaque année, on en vend à peu près 2,5 millions, voyez.
C'est pour faire un métier?
On en a un peu moins vendu, autant vous le dire, pendant la période du confinement. Ça peut vous aider.
Alors, c'est quelque chose qu'on utilise
c'est lié à l'extérieur.
Déplacement, le voyage. Pour les femmes, par exemple. Est-ce que ça peut être du rouge à lèvres,
un
tube
de rouge à lèvres? Femmes auraient été désavantagées pendant le confinement par rapport aux
parce
hommes
que non, on se maquillait plus parce qu'on sortait plus.
Voilà, beaucoup de maquillage.
Voilà. Vous vous maquillez plus pendant le confinement?
Quand je sors pas, moi je me maquille pas.
Et pour votre mari qui était confiné avec vous?
Mais quand... Ah oui, mais quand tu es là, je me maquille.
Non, en fait, pour être plus précis, Laurent, il ne s'est plus vendu de rouge à lèvres parce que les femmes avaient des masques et ne mettaient plus de rouge à lèvres. En revanche, le maquillage pour les yeux a continué à se vendre.
Si elle était à la maison avec son mari, elle mettait pas un masque.
Non, mais de toute façon,
sauf si elle a des problèmes d'haleine.
Si elle a envie de faire l'amour, elle était obligée.
Et des balles masquées pour les noces de perles.
Pour motiver le chaland.
Non, ça fait du bien à la peau de ne pas se maquiller, de se mettre des tartines comme ça.
Non, puis au bout d'un certain temps.
Pas la vôtre.
Non, mais ils s'aiment sans artifice, ils n'ont pas besoin.
Voilà.
Comme
d'une
ça,
part.
Voilà.
Un petit
d'une
peu
part.
D'enduit, et puis voilà.
Oui, ou une soirée cagoule.
Ça glisse tout seul.
C'est ça.
Bon, qu'est-ce qui se vend tous les 8 secondes?
Ça s'utilise en extérieur, peut-être.
Ah, si, j'avais trouvé.
Alors, on peut
un parapluie
à l'intérieur, mais c'est plutôt.
C'est un gros objet?
Non, mais vous étiez sur une piste, monsieur Ferrand. Vous
avez un outil, j'ai dit.
Non, après, vous avez dit, avant que monsieur Beaugrand parle de rouge à lèvres. C'était lié au fait que...
Ah oui, on voyageait, oui, voilà.
Voilà. C'est
ça. Ah, des valises.
Ah. Alors, des valises, non.
Mais c'est de ce registre-là.
Toutes on se rapproche.
Un cadenas.
On en vend
un. Un cadenas.
Vous utilisez les cadenas en voyage.
C'est pas un parapluie, par exemple.
Pour ma valise.
Un cadenas.
Un cadenas pour la valise.
Un cadenas.
Quand on la met en chute.
Bon, alors, Laurent, pardonnez-moi, mais toutes les 8 secondes, ça veut dire qu'on en vend beaucoup. Est-ce que ça coûte cher?
Vos expériences sadomaso, monsieur Jean-Philippe Janssen, ne ne nous regarde pas.
Mais je comprends, mais j'essaye de trouver qu'est-ce que j'achète toutes les 8 secondes.
Est-ce que ça coûte cher, Laurent?
Ça coûte cher?
Est-ce que c'est un objet qui coûte cher?
On n'achète pas un tout les 8
secondes. Tous en achètent. Ils vendent.
Voilà, ils s'en vendent.
Est-ce que c'est un objet cher?
Non, non, c'est pas
un parapluie.
C'est
moins de 10 euros.
Un parapluie.
Ça coûte combien, genre?
Un parapluie. Non, combien ça coûte? Faut que je vérifie.
C'est un vêtement.
C'est donc un objet du quotidien.
Une pièce de vêtement?
Ah non, c'est pas un objet du quotidien.
On en a vraiment besoin en voyage?
Pardon?
On en a vraiment besoin en voyage?
On peut s'en passer, mais en tout cas...
C'est quand on prend l'avion.
La preuve que certains trouvent ça utile, c'est quand même, il s'en vend un toutes les 8 secondes.
Bon, ça se porte sur soi?
C'est fait en tout cas pour le porter, pour l'avoir
avec soi.
C'est un
vêtement? Est-ce que c'est un vêtement?
Un vêtement, non.
On l'a dans la poche?
On peut l'avoir dans la
ça
poche.
Ça tient dans la poche, je veux dire. C'est un petit truc.
Des grosses poches.
Des grosses poches, mais une poche. Oui, parce que ça tient dans la poche, mais ça dépasse un peu par expérience.
Ah, mais c'est le guide du routard.
Excellente réponse de Julie Leclerc.
Il y avait une photo où il y avait un mur de guide du routard dans le bureau de, comment il s'appelle déjà,
Philippe Blohagen.
Philippe Blohagen,
cofondateur du routard, puisqu'il y a un nouveau routard Paris qui vient de sortir. C'est le guide le plus vendu en France, le guide du routard. Depuis 1973, ça existe et il s'en vend un toutes les 8 secondes.
C'est
alors
incroyable.
Évidemment, il s'en est moins vendu pendant les périodes de confinement parce qu'évidemment, on voyageait moins. Mais j'ai une petite question subsidiaire, puisque tout le monde connaît le logo du guide du routard. Et oui, ce sera une deuxième chance pour monsieur Régis Rodriguez qui habite dans l'Oise précisément. Bon. Quelle est la particularité du sac à dos du routard?
C'est la Maconde, c'est la Terre, c'est la Terre.
C'est un globe terrestre. Bonne réponse. Vous l'utilisez, vous l'achetez le routard, Julie?
Ah oui, oui, oui.
Ah bah voyez,
très
voyez.
Très souvent, même pour la France. On vient d'acheter la Lorraine, là.
Ah, c'est pas vrai.
Mais non, mais c'est de la touche.
Il s'éclate, hein, tous les deux, le week-end.
Ah, quelle belle vie.
Allez, on va aller péter en Lorraine ce week-end.
Il a le sens du rêve, Gérard Leclerc.
Julie, ce mois-ci, on part en Lorraine et on est en Alsace après.
Et un petit week-end à Vierzon, allez hop.
Allez,
vous savez ce qu'on fait.
Mais t'as pas peur, c'est vers l'est.
Quand on sait pas quoi faire le dimanche, qu'on est à Paris et tout, et qu'on s'ennuie.
On va à Vesoul.
On prend une ville de France qu'on connaît pas et on y va.
Tu es allé où récemment?
À Étampes.
Oh, c'est très bien.
Alors, c'est dans l'Essonne. Je connais Étampes.
C'est oui.
Étampes, c'est vrai que c'est pas...
Et le week-end.
Ah ouais. Alors là, vous vous ennuyez vraiment. Autant la Lorraine, je trouve qu'on a été narquois, on a exagéré. Parce que quand même Nancy, tout ça, c'est magnifique. Colmar et j'en passe.
Colmar, c'est
l'Alsace, pardon. Enfin, c'est pas loin tout ça, Nancy, Colmar.
C'est beau.
C'est quand même chouette. Mais alors, Étampes.
Alors, je vais vous dire.
Est-ce que le week-end prochain, vous allez à Palaiseau?
Non, mais on peut aller.
Attendez, on veut savoir. Alors, vous y êtes allé. Qu'est-ce que vous avez vu à Étampes?
Alors, à Étampes, il y a déjà 4 églises qui méritent d'être vues.
Il y a 4 églises.
Et surtout.
Il y a un carrefour.
Vous avez une tour penchée. L'autre jour, on a parlé de la tour de Pise.
C'est la tour des Temples. Le monde entier.
Je vais vous
expliquer. Les gens se font chier à aller à Pise.
C'est plus près.
Alors qu'il y a Étampes. Mais qui sont cons, les gens?
Laurent.
Mais alors, vous dormez à l'hôtel?
Vous avez
les pyramides d'Étampes.
Bien sûr.
Franchement.
Les pharaons d'Étampes.
Mais oui. La statue de la liberté d'Étampes.
Bien sûr, le Taj Mahal des Temples.
Le
Machu Picchu des Temples.
Les canons des Temples.
Bien sûr, très connu.
Un peu la Venise du Nord, quoi, en fait.
Vous avez l'église Saint-Martin des Temples qui est comme ça.
Ouais.
Et son clocher, il est comme ça.
Oh, c'est
et on l'appelle la tour penchée.
Ah, et ça vaut le coup.
Magnifique.
Et ça vaut le coup.
Et au niveau du jet lag.
Et alors, est-ce qu'il y a des bons restaurants à Temples?
Alors, le bon restaurant, il y avait que deux restaurants.
Il y avait un couic qui est fermé.
En plus, vous y allez le dimanche.
Oui, c'est pour ça.
C'est fermé.
Non. On a déjeuné au rendez-vous des amis.
Oh oui, connais, oui.
Mais c'est vrai en plus.
Est-ce que c'était bon?
Il n'y avait que deux restos dans le guide du routard.
Il y a un guide du routard des Temples.
Des Temples, oui.
Oh, des Temples,
il doit être très épais.
C'est le guide du Quetard, non?
Et alors, franchement, faut vraiment pas aimer Michel Drucker. À vous de jouer sur RTL. Nicolas Pilou est au téléphone.
Pilou.
Bonjour
Pilou.
Nicolas.
Vous en doutiez, Nicolas. Je suis désolé. Vous êtes à Lille-Adam, voilà, un dimanche prochain pour...
Ah, voilà. Bah vous êtes quelqu'un
Julie qui va se loger chez vous.
Non, non, déjà fait.
Château de Store.
C'est dans le Val d'Oise, Lille-Adam.
C'est bien ça, ouais.
Vous êtes 37 ans, Nicolas. Que faites-vous dans la vie?
Alors, je suis fonctionnaire de police.
Oula!
Monsieur Pilou.
À Lille-Adam, ça bosse?
Agent Pilou.
Ah non, non, je suis dans le 93, un peu à Lille-Adam.
Ah, vous allez peut-être partir en Corse.
Non mais franchement, bonjour, je vais résoudre cette enquête, je suis le commissaire Pilou. Je suis désolé.
Ça fait série de TF1.
J'ai un doute.
Commissaire Pilou.
Commissaire Pilou. J'ai un doute, Navarro, ça marchait mieux.
Allô, Pilou.
Commissaire Pilou, j'écoute.
Commissaire Pilou.
Ne les écoutez pas, Nicolas.
Mais non, vous savez, ils sont
ça
très...
Ça fait adjoint Juilesco un peu.
Ah ouais, commissaire Pilou.
Ils sont très mal élevés.
Allô, Pilou.
Excusez-nous.
Je vais résoudre
l'enquête. Sur le coup, Pilou.
Foi de Pilou. Ouais.
Ça, on dirait les experts étampes avec le commissaire Pilou.
Moi, le commissaire Pilou, je vais vous faire parler.
Pilou le rifou.
Alors, Pilou face.
Il ne nous reste plus qu'une dernière chance. Appelez Pilou.
C'est pas Nicolas, Brian de... je suis pas solidaire.
C'est pas Brian de Palma qui a filmé les aventures d'Eliott Pilou.
Ah oui.
Bon, Nicolas,
désolé, Nicolas,
ne nous écoutez pas. On dit des conneries. L'essentiel pour vous, c'est d'aller au Pinarello en Corse.
Ah, ouais.
Et ça, franchement, c'est une belle promesse.
Ah,
au
ouais,
sud de la Corse, tout près de Porto Vecchio. 4 jours, les pieds dans l'eau. L'hôtel vous attend déjà. Enfin, bah oui, il y a baie, il y a la chambre, la baie turquoise, le spa, la piscine sur le toit. Bref, je vais pas vous refaire le détail. J'en parle depuis lundi, mais je suis sûr que vous y voyez déjà, Nicolas.
Ah oui, clairement. Ah oui.
Pour ça, il faut miser sur la bonne grosse tête. Qui, aujourd'hui, à votre avis, a le mieux révisé ou retenu les noms qui font l'actualité?
Alors, de prime abord, j'aurais pensé à Franck, mais il est assez fort chez les morts.
Chez les morts. Et ouais, pas chez les vivants.
Alors, sur les vivants, je vais miser sur le moqueur, là, sur Christophe Bogan.
Oh là là, ah ouais. Je peux pas se pardonner en plus. J'espère qu'il va pas me sortir des questions foot, là.
Ouais,
parce que...
ouais. Oh, c'est facile.
Bon, non, vous avez raison.
J'ai confiance, Christophe.
Ouais, je vais faire ce que je peux, commissaire Pilou.
Bah tiens, on commence par vous pour voir Christophe Bogan.
Oh non, pitié pas une trop dure, Laurent.
Qui est? Ben non, alors on va commencer de l'autre côté. Tiens.
Oh, ouais. C'est Pilou que... face. Hein.
Oh, oh,
personne ne l'avait faite encore.
Et moi, je vis ma vie à Pilou face.
Parce que Beaugrand est à un bout, et si j'ose dire.
À l'autre bout.
Et Janssen à l'autre bout.
Ça rappelle des soirées.
C'est souvent comme ça.
Ah oui.
Monsieur Janssen.
Je vous en prie.
Pouvez-vous me dire qui est Gianluigi Donnarumma?
Attends, je l'avais celle-là en plus.
Gianluigi Donnarumma.
Ouais.
Eh ben, c'est un footballeur, non?
Ah oui, mais quoi, comment?
Oh bah, comment qui tire dans un ballon et qui marque un but sûrement.
Ah, c'est pas de chance parce que c'est plutôt celui qui les arrête pas.
C'est le goal du PSG.
C'est le gardien du PSG.
Ah, je le savais.
Vous êtes éliminé. Il a fait une boulette alors, monsieur Gazan. Il a fait une boulette.
Ah, il a fait une boulette, ouais.
Alors pourquoi il a pas pris l'autre gardien là? Parce qu'ils sont
Navas, deux. Navas, parce qu'il estimait que Donnarumma était meilleur pour ce match-là. Bah, il estimait mal.
Et ben voilà. Alors c'est perdu. Puis c'est aussi une élimination pour monsieur Janssen qui fera pas les quarts de finale lui non plus.
Bah, non mais toi.
Monsieur Gazan, pouvez-vous me dire, monsieur Gazan, qui est Raphaël Balthazar?
Raphaël Balthazar, bah c'est le héros de Balthazar, la série de Thomas Sisley.
Excellente réponse de Florian Gazan.
Il est beau, tout. Aïe, aïe, aïe.
Valérie Mérès, qui est Jacqueline Gouraud.
Jacqueline Gouraud, c'est un gourou de
gourou.
D'une secte.
Elle va surtout rentrer dans la secte du Conseil constitutionnel. Et elle était jusque-là ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.
Ah oui, je n'ai pas eu de cohésion.
Jacqueline Gouraud vous élimine, tu Valérie Mérès. Franck Ferrand, vous voyez, hein, on y vient tout doucement hein, quand même, Nicolas, même s'il y a petit hic, c'est que
Monsieur Gazan
soit déjà qualifié. Je vais essayer de vous éliminer Ferrand et Leclerc.
Ça va être vite fait.
Je compte sur vous, Laurent.
Alors allons-y, Monsieur Ferrand, on va l'éliminer tout de suite avec...
Donnez-y un vivant.
Donnez-lui une question sur un rappeur.
Un vivant dans le sport.
Un vivant dans le sport.
Il y a un petit côté...
Qui est Messi?
Non, on va lui demander qui est Juliette Méadel.
Juliette, mais Adèle, c'est pas un anacyclique, ça.
Non. Oh, c'est du genre von Bismarck, ça, non?
Oui, c'est sans doute.
C'est sur la bataille de Nanjou.
Ah, elle a été secrétaire
c'est
d'État.
C'est l'ancienne secrétaire d'État aux victimes.
Aux victimes.
Une très belle femme.
Sous François Hollande. Ouais. Et elle vient d'annoncer, elle aussi, qu'elle soutenait Emmanuel Macron. Vous êtes éliminé, monsieur.
Eh ben voilà.
Ferrand. Julie Leclerc.
Ben, je redoute, là.
Qui est Franck Elong Abbé. Franck Elong Abbé.
Bah, c'est le maire des tempes.
Franck Elong Abbé.
Ah, Elong Abbé. En
il est dans tous les journaux, Franck Elong
Abbé. Ah bah oui,
Franck Elong Abbé, il est sportif.
Non, il a agressé Yvan Colonna.
Ah, c'est celui-là.
C'est celui qui était effectivement dans la même prison que M. Colonna et qui depuis, évidemment, a quelques soucis. Enfin, les deux d'ailleurs ont des...
Il a quelques soucis.
Bah, ils avaient déjà des soucis puisqu'ils étaient en prison les deux. Enfin, bah, ils en ont encore plus qu'avant. Et l'un et l'autre, vous êtes éliminés, Julie Leclerc.
Tant mieux pour notre candidat.
Christophe Beaugrand, qui est Olaf Scholz.
Olaf Scholz,
C'est
le successeur d'Angela Merkel, c'est le chancelier allemand.
C'est bien, mon petit Beaugrand.
Voilà, c'était facile.
Et qui est Emmanuel Macron?
C'était facile. Non, mais j'avais les autres réponses.
Monsieur Gazan, pouvez-vous me dire qui est Karl Olive?
Karl Olive, c'est le maire de Poissy.
Ah oui.
Ancien journaliste à Canal+, qui était à la première réunion de Emmanuel Macron.
Excellente réponse, Florian Gazan. Oh là là.
Ça aurait pu être le maire des tempes, hein.
Christophe Beaugrand, qui est Olivier Dubois.
Eh bien, Olivier Dubois, ça me dit quelque chose pourtant.
Bah oui.
Oh. Ah, mais oui, alors oui, c'est vrai, on le fait à chaque fois. C'est le fameux dernier français, journaliste français qui est otage au Mali.
Et qui était journaliste.
Et qui était journaliste à Libération.
Excellente réponse.
Merci Laurent. Non, mais je le connaissais, c'est vrai.
Ça lui est revenu.
Eh oui, ça m'est revenu.
Florian Gazan, attention Florian.
Il doit être con l'autre.
Tu parles de Beaugrand ?
Monsieur Gazan, qui est Brigitte Klinkert.
Elle est commissaire européenne ?
Non.
Brigitte Klinkert. Alors, si, Brigitte Klinkert, c'est la troisième femme en partant de la droite sur la bataille d'Ondaggio de
Vinci. Vous savez,
non, elle est secrétaire d'État, je crois, aux personnes handicapées.
Elle est même ministre.
Ou ministre, non, ou retraitée, je sais plus. Mes
ministre délégué à l'insertion.
Ah, oui, ça n'a rien à voir. Mais bon, elle était dans le gouvernement.
Le grand gagnant est Christophe Beaugrand.
Bravo. Je suis rassuré.
Monsieur Pilou part en Corse.
Bravo, monsieur le commissaire. Bravo, commissaire Pilou.
Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL.
Toujours avec Valérie Mérès et son partenaire de théâtre, Jean-Philippe Janssen, Florian Gazan, Christophe Beaugrand, Franck Ferrand et Julie Leclerc. Allez, tiens, une question qui va faire plaisir à Monsieur Ferrand pour Arthur Loquet, qui habite Hérouville-Saint-Clair, c'est dans le Calvados. Mmh. Comment appelle-t-on une pergola quand elle est naturelle?
Chantal Latsou.
Réponds, mon Franck, elle est comment,
ta pergola? Un abri sous roche.
Non, pas une tonnelle.
Un abri sous roche.
Non. Comment?
Ah, naturelle, vous voulez dire quand on la fait, quand elle est végétale.
Exactement.
Quand c'est pas une akena.
Une charmille.
Quoi,
voilà.
Pardon?
Une charmille.
Une charmille. Oh. Bonne réponse de Julie Leclerc. Eh oui. Une charmille parce des charmes qui composent cette allée ombragée, telle une tonnelle ou une pergola, effectivement.
L'arbre sculpté.
Et c'est vrai que ces arbres, et on appelle ça d'ailleurs, comment on appelle ça? On appelle ça l'artopierre.
C'est ça exactement. Là.
Voilà, une forte haie taillée, et les charmes ont cette particularité qu'ils sont feuillus plutôt toute l'année.
Non, ils ne sont pas feuillus toute l'année, mais quand ils sont feuillus, ça fait comme un mur végétal dans lequel on peut tailler.
Et quand ils ne sont pas feuillus, alors
quand ils ne sont pas feuillus, c'est pas très beau, on attend qu'ils fassent meilleur. Bah, quand ils...
Je suis désolé de vous contredire, monsieur Ferrand.
Le charme perd ses feuilles l'hiver.
Alors écoutez, je vous lis la définition d'une charmille. Une charmille est une allée ou une forte haie taillée en taupière, constituée de charmes. Les charmilles, dans le sens allée, ont souvent la caractéristique de ne pas être dégarnies en hiver.
Non, parce que la petite feuille, elle devient jaune et elle tient en place jusqu'à ce qu'arrive la feuille verte.
Bah, c'est pas ce que j'ai mis de
dire. Oh. Mais elle meurt quand même.
Oh là là.
Ah, oui, mais elle reste feuillue, il reste feuillue.
Il y a des feuilles, mais vous trouvez que les feuilles sont moches, en fait.
Voilà, c'est ça.
D'accord.
En tout cas, vous avez trouvé, Julie, le nom, effectivement, de la pergola naturelle, une Charmille. Maintenant, il s'agit de retrouver un auteur de théâtre. Et là, je me tourne évidemment vers Valérie Mérès, qui peut-être a joué ce célèbre auteur, qui d'abord a écrit des pièces pour la radio, pièces radiophoniques, puis pièces de théâtre, quelques romans. Il fut aussi metteur en scène, acteur même et producteur. Voici donc un nom facile, normalement, à retrouver pour vous. Il est l'auteur de la célèbre pièce « Comment va le monde, monsieur ?»
Il tourne, monsieur.
Comment il s'appelle ?
C'est pas Topor ?
Ah non, c'est pas Topor. Il a écrit aussi « La nostalgie, camarade », qui fut créée à la Comédie française.
Pas Audibert.
Non, et il a écrit aussi, j'aime bien ce titre de pièce d'ailleurs, « Ai-je dit que je suis bossu ?»
Quasimodo ?
Non, non, mais c'est amusant comme titre. Non, non, non. Mais je crois effectivement que la pièce la plus célèbre est celle par laquelle j'ai commencé. « Comment va le monde, monsieur ? Il tourne, monsieur. » Ça s'écrit M-O avec un chapeau sur le haut.
Dans les années 60 ?
Voilà pourquoi je le prononce ainsi. Oui, elle fut écrite et jouée dans les années 60.
Il est mort depuis longtemps, ce monsieur ?
Oh, il est...
C'est pas Roland du Billard ?
Non, non, c'est pas du Billard, mais je comprends, approche, je comprends pourquoi ce mot et ce nom vous vient à la tête, chère Julie.
Car Roland du Flipper ? Roland du Jukebox ?
Parce que vous n'êtes...
Compagnon de radio.
Vous n'êtes pas si loin. Il a été aussi membre du Conseil du développement culturel dans les années 70, président de la Société des gens de lettres dans les années 80, et cofondateur de la Société civile des auteurs multimédia, la fameuse SCAM qui vous paye.
Billet-Doux.
François voilà, Billet-Doux. Ah, oui. Bonne réponse de Valérie Mérès. Ah. Dès qu'il s'agit de théâtre...
Dès qu'il s'agit de pognon, c'est quand vous lui avez parlé de la SCAM.
La SCAM. François Billet-Doux.
Ah, ouais. Oui, oui.
Ah, il fallait le retrouver. Bravo Valérie. Une question pour Francis Dupont, qui habite Paris 15e. Si vous allez place du Trocadéro, à la cité de l'architecture, vous allez voir un coq qui n'y figurait pas avant. Quel est ce coq ?
Le coq ring ?
Non.
Emblème du rugby, là, des non. équipes de rugby ?
À la cité de l'architecture.
Et du patrimoine.
Donc, c'est un moulage de, d'une girouette connue, c'est ça ?
Ah, c'est pas un moulage.
C'est, le c'est coq, la girouette elle-même.
Le coq de Notre-Dame de Paris ?
Le coq qui est tombé, effectivement, de Notre-Dame de Paris. Bonne réponse. Et d'ailleurs, on ne lui remettra pas hein, ce coq.
Ah bon ?
Ah ben non, parce que d'abord, il y avait des reliques à l'intérieur de ce coq qui est tombé hein, quand même de 93 mètres de haut lors de l'incendie de Notre-Dame en 2019. Il y avait à l'intérieur du coq, ça je l'ignorais, 70 épines de la couronne du Christ.
Oui.
Il s'est un peu tordu le cou.
Ah, oui.
Il a eu une aile cassée aussi.
Oh, ben
Et les trois reliques qui étaient enfermées, alors il y avait les épines de la couronne du Christ, oui. des ossements de Sainte Geneviève,
et des bulletins de vote à Hidalgo.
Il était bien rempli.
Et des ossements de Saint-Denis, patron de la ville de Paris.
Et il était
on
gros,
les
là.
A extraits du corps du coq et confiés au clergé. Et le coq ne pourra pas être restauré. Il sera finalement voilà, exposé.
On va en mettre un autre, j'imagine.
On mettra un autre coq,
bien sûr.
Mais on peut le voir à la Cité de l'architecture, place du Trocadéro, à Paris, le coq de Notre-Dame. Bonne réponse de Florian Gazan.
RTL, 6 grosses têtes, 5 fake news.
Estelle Rambaud est au téléphone.
C'est pas moi, colonel.
Bonjour Estelle, ma pauvre. Vous avez dû en entendre pendant... Toute votre vie, vous avez dû entendre ça, non ?
Ah oui, oui, oui. Alors ne vous moquez pas, s'il vous plaît.
Ça, c'est fait déjà.
Ça s'écrit Rambaud, R-A-M-B-E-A-U, Estelle. Que faites-vous dans la vie ?
Je suis viticultrice.
Viticultrice, en Gironde, alors ?
Oui, c'est ça, du côté de Saint-Émilion.
Vous êtes à Sainte-Colombe, précisément, c'est ça ?
Donnez-moi
mille colombes pour
quel vin vous faites, alors, si vous êtes viticultrice ?
C'est du Saint-Émilion.
Du Saint-Émilion, ah, oui, quand même
c'est pas dégueu, ça.
Bon, bah, écoutez, en échange, peut-être, du voyage Thalasso que je vais vous proposer, vous pourriez nous lâcher une petite caisse.
Donnez ça à Julie.
C'est les noces de perles.
C'est le truc de Julie, ça.
Ouais, c'est les noces de perles.
Ah bah, Gérard Leclerc est vigneron aussi.
Sûr, oui.
Exactement.
Mais sous le lit.
Du vin. Bon,
Valérie,
oh là là, il fait un champagne de merde.
Mais non. Mais Valérie.
Ah, il y a du cidre, il y a du champagne Leclerc.
Ah, oui, parce qu'on fait pétiller notre vin.
Ah, parce que vous pétez dans votre vin.
Oui. C'est ça.
Ça fait des bulles.
Non, on le fait pas nous-mêmes, on le donne à Saumur, il nous champagnise notre vin blanc.
Ah oui, champagnise.
C'est la méthode champenoise.
Alors, il faut quand même dire que l'été dernier, Valérie Mérès, que j'ai rarement vu ivre, parce qu'elle ne boit pas, Valérie.
Bah, je bois pas
elle était
beaucoup,
complètement raide. Elle n'a pas besoin.
Et là, l'été dernier, elle était vraiment raide.
Mais enfin, c'était tellement bon qu'elle en a pris beaucoup.
Mais non.
Et alors, au bout d'un moment, elle disait au Leclerc, il est dégueulasse, votre pinard.
Mais il y a qu'elle qui l'aime pas. Tout le monde nous dit qu'on dirait du champagne.
C'est parce qu'elle était bourrée qu'elle l'a dit, sinon nous, on pouvait rien dire.
Elle était pas bourrée, tu peux rester poli.
Non, mais elle l'a bu quand même. À la fin, vous avez des vinaigrettes avec.
Ah, c'est pour ça qu'il n'y en avait plus dans le frigo, j'en avais mis.
Non, c'est pas vrai, il est très bon votre vin.
Ah, merci Laurent.
Moi je l'ai goûté, il est très bon.
Moi j'ai débouché l'évier avec, hein, par contre parfait.
Mais c'est à goût de champagne ou pas, franchement?
Mais évidemment.
Franchement,
je vous en apporte la prochaine
fois. C'est du champagne du Poitou. Bon, bah voilà.
Ah ouais, c'est délocalisé. Ouais.
De la méthode champenoise. On ne peut pas dire champagne, évidemment. Méthode champenoise.
Ouais. Bah, nous, voilà. On la connaît, la méthode Europe 1, c'est pareil. Ils essaient de faire de la radio, ça y ressemble, mais ça n'en est pas.
Et souvent, ça saoule.
Mais c'est fini. Arrêtez de dire du mal de la radio bleue.
Vous êtes toujours là, Estelle?
Oui, tout à fait.
Ah bah vous nous avez donné du grain à moudre, c'est qu'à le dire. Ou du raisin à presser. Voilà, en tout cas, le voyage que vous allez peut-être faire, grâce à nous, Port Camargue vous attend.
Oh, la maison.
Alors, quel est le nom d'hôtel, Laurent?
Ah, c'est l'hôtel 4 étoiles, les bains de...
Les quoi?
Les bains de campagne.
Les bains de campagne.
Les bains de pied.
Les bains de Camargue.
Ah, je connais.
Une échappée belle au pays du soleil, un coup d'éclat au pays de la Camargue, une parenthèse de bien-être avec des soins d'hydro thérapie. Vous connaissez, monsieur Gazon?
C'est ma région.
Oui, l'encyclopédie.
C'est ma région, la Camargue.
Ah oui. Thalazur, son 9 instituts et 4 ou 5 étoiles à chaque hôtel. Thalazur.fr pour réserver votre séjour. Estelle, vous êtes prête?
Super, mais j'espère, je vous écoute.
Écoutez bien, les grosses têtes, attention. Une seule vraie info, 5 fake news. On commence par Franck Ferrand.
Alors Estelle, l'Américain qui avait été greffé avec un cœur de porc il y a 2 mois... est décédé mardi dernier, hélas. C'est Madrange qui organisera l'incinération.
Valérie Mérès.
Football. Les dirigeants du Paris Saint-Germain viennent d'annoncer que le goal parisien Donnarumma sera prêté dès demain pour 1 an au club du Dynamo de Kiev, en Ukraine.
Regardez la tête que fait Gazan.
Ça l'amuse.
Florian Gazan.
Le fils d'Anne Hidalgo a décidé de lancer des stages de survie en Île-de-France. Aucun rapport avec la campagne électorale de sa mère.
Jean-Philippe Janssen.
Oui, Valérie Pécresse vient de dévoiler sa nouvelle affiche et slogan de campagne, le courage de faire. Fuca, Dulcolax et les pruneaux d'Agen portent plainte pour contrefaçon.
Christophe Beaugrand.
Real Madrid-PSG. À la fin du match, au moment de l'échange des maillots, Kylian Mbappé a dit à Karim Benzema qu'il préférait qu'ils échangent leur contrat.
Et Julie Leclerc pour terminer.
Débat Zemmour-Pécresse ce soir sur TF1. Éric Zemmour et Valérie Pécresse présentant les deux plus gros patrimoines des candidats à la présidentielle. C'est Julien Courbet, animateur de l'émission Capital, qui arbitrera le débat.
Alors à votre avis, qui a dit la vérité, Estelle?
Alors, Monsieur Ferrand, non.
Non, Madrange pour l'incinération de l'homme au cœur de porc, on oublie.
L'homme au cœur de porc.
Jean-Phi, je vais éliminer aussi, je pense.
Jean-Phi, alors c'est vrai que la nouvelle affiche de Valérie Pécresse, c'est le nouveau slogan, c'est le courage de faire.
C'est terrible.
Je ne sais pas qui l'entoure.
Ah ben non, mais c'est pas possible.
Cette candidate, mais alors...
on a l'impression qu'elle veut vraiment
mais
perdre.
Mais non, mais ce qui est terrible,
je me demande si elle n'aurait pas le même conseil en communication qu'Anne Hidalgo, dis donc.
Mais ce qui est terrible, c'est que t'imagines, il va y avoir des affiches partout et tout le monde va écrire caca.
Mais oui, le courage.
toutes les comment, affiches dans les rues, comment, c'est évident.
Comment il n'y a personne qui lui dit, je comprends pas, surtout, faut pas prendre ce slogan, le courage de faire.
Caca.
Enfin, alors, je pense qu'en plus, ils ont dû se réunir pendant 2 ou 3 heures en disant.
Ah oui, il y a un séminaire là-dessus.
C'est super, ouais, parce que ça fait fer, F-E-R aussi, comme ah dame ouais de fer.
Ah, Margaret Thatcher.
C'est sûr que c'est ça.
Ouais, t'as raison.
Ah oui, oui. Ça va pas. Mais il n'y en a aucun qui lui a dit, ça fait aussi penser à faire caca. Non, ça, personne.
Ça peut surtout penser d'ailleurs à ça, d'ailleurs.
Mais c'est quand
plus que la dame de fer.
Celui qui a eu le malheur de dire faire caca, il a dit, oh bah toi t'es limogé, tu t'en vas. Ouais.
J'espère qu'elle va pas le mettre en application ce soir sur LCI.
Le courage de faire, ça c'est vrai. En revanche, évidemment, vous avez raison d'éliminer quand même Jean-Phi, parce que Fuca et les pruneaux d'Agen n'ont pas porté plainte pour contrefaçon. Alors, qu'est-ce qui vous reste?
Je vais éliminer Madame Mérès. Il me semble qu'il m'en reste 2. Il me reste Monsieur Beaugrand, c'est ça?
Oui.
Et Madame Notaire, c'est ça?
Oui. Alors, il faut décider maintenant.
Alors, Estelle, est-ce que vous pouvez juste me répéter la deuxième, enfin, celle de Madame Leclerc, s'il vous plaît?
Alors, débat Zemmour-Pécresse ce soir sur TF1. Éric Zemmour et Valérie Pécresse présentant les 2 plus gros patrimoines des candidats à la présidentielle. C'est Julien Courbet, animateur de l'émission Capital, qui arbitrera le débat.
Je pense que c'est ça, mais...
Ah bah écoutez, je pense qu'on recevra donc pas de Saint-Émilion, parce que,
ben oui, là, je suis désolé,
parce que
là,
vous recevrez pas le voyage à l'hôtel, Estelle.
Oh,
Estelle.
Oh, dommage.
Ah bah oui. Enfin, Estelle, écoutez, comment vous imaginez que Julien Courbet animerait très bien un débat, mais enfin, il serait pas choisi parce qu'il anime Capital et que les 2 autres ont les plus gros patrimoines de la campagne.
Et puis en plus, il est pas sur la chaîne.
Ouais, je sais, mais c'est le stress, en
mais
fait.
Mais il est pas sur la même chaîne, en plus.
Non, la bonne réponse, la bonne réponse.
C'était Monsieur Beaugrand.
Mais non, non. Vous imaginez que Mbappé a pas dit à Benzema, je préférerais qu'on échange nos contrats.
Il y a peut-être pensé.
Non, voyez, aucun regret, Estelle, parce que manifestement, vous avez écarté trop rapidement le fait que le fils d'Anne Hidalgo lance vraiment des stages de survie en Île-de-France. Et là encore, on a envie de dire, mais comment sa mère lui a pas dit, tu peux pas attendre un peu?
Attendre un mois, quoi.
C'est quand même
dingue.
Non, mais c'est quand même dingue. Ils le font exprès, on les en remercie. Une question pour Julien Joly de Mulhouse. Quel est le tableau le plus cher au monde?
Alors, c'est plus les tournesols, non? Les tournesols de Van Gogh?
Les tournesols de Van Gogh, non.
Alors, attendez, il a été vendu récemment ou c'est l'estimation?
Ah oui, il a été vendu il n'y a pas longtemps.
C'est plus récent ou plus ancien?
C'est-à-dire,
qu'est-ce que Van Gogh?
Ah, c'est peut-être le fameux Salvator Mundi de Léonard de Vinci.
Oh, voilà, tout simplement. Bravo, Franck Ferrand, excellente réponse.
Décidément, Léonard, aujourd'hui.
Pour une fois que tu retrouves une de ces toiles.
Le fameux Salvator Mundi, voilà, je vous offrais une deuxième chance par rapport à Leonardo da Vinci, Franck Ferrand, bravo, c'est lui. D'ailleurs, je crois que pour l'instant, ce tableau, on peut plus le voir, on sait pas, enfin, c'est pas qu'on sait pas où il est.
Abu Dhabi,
mais c'est le prince héritier d'Arabie Saoudite.
Il l'avait mis dans la salle à manger de son yacht.
C'est pas vrai, sans rire.
Oui.
Pas vrai. Oh,
qu'est-ce qu'elle fait là? Elle croise les doigts, là, la dame sur le tableau.
Alors, ce n'est pas une dame, hein, c'est le Christ en l'occurrence.
Mais on bah, dit donc qu'il est très mal fait. J'ai toujours pensé que c'était.
Il faut dire ça à Léonard.
Mais on dirait qu'il a une robe.
J'ai toujours pensé que c'était une femme, le Salvator Mundi.
Salvator Mundi, ça veut dire le sauveur du monde.
Ah bah oui, mais moi je pensais que c'était une femme qui priait.
Qu'est-ce qu'elle fait, la dame?
Oh là 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 là. Laurent, mais il est affreux, le Christ.
Ah non, il a probablement les traits de Melzi, qui était l'un des élèves de Léonard. En tout cas,
si ça, c'est le Christ.
Non, moi Jésus, je l'ai vu, c'est pas Jésus, ça.
Alors là, j'ai toujours pensé que c'était une femme qui priait Jésus.
Si vous regardez bien tous les personnages, regardez le Saint-Jean-Baptiste du Louvre, par exemple, la plupart des personnages de Léonard sont androgynes, comme ça. En fait.
Salvator Mundi, sauveur du monde, mais alors... Déçu par Léonard.
Ah, bah oui. On peut pas lui rajouter une petite moustache, une petite barbe pour faire Jésus.
On ne sait pas si c'est Léonard, c'est toute la question. On ne sait pas si c'est lui. C'est-à-dire qu'il y a la moitié des experts, pour pas dire les 2/3, qui disent que ce tableau n'est pas...
Non, mais alors, qu'est-ce qu'il fait avec ses doigts, Jésus, alors?
Ah ben, il est dans la position de la bénédiction suprême. Vous voyez,
et avec l'autre main, il se gratte les couilles.
C'est ce qu'on appelle un Christ pantocrator.
Sur la croix, il peut
alors,
plus,
je vous interdis. J'ai, monsieur, une croyance catholique qui fait d'ailleurs que tout de suite, je n'ai pas reconnu Jésus.
Bah, vous pensez que Jésus est un travelot, alors?
Quand j'allais au catéchisme, je suis désolé, on ne me l'a pas montré comme ça.
Il avait des
bébé.
habillé non, le mais bronzé.
D'abord, il avait la barbe, elle n'a pas de barbe.
Oui, mais surtout, il y a un décolleté très féminin. Quoi. Un homme, il n'a jamais un décolleté comme ça.
Enfin, c'est pas possible.
C'est un drag queen.
Là, on dirait qu'il y a une poitrine.
Vous êtes en train de découvrir le caractère androgyne de Léonard de Vinci. C'est quand même fort.
Non.
Il nous prend pas pour des cons.
On sait bien que la Joconde, c'est le Jocon.
Il y a d'ailleurs un livre de Sylvie Erfort qui s'appelle Le Jocon, où elle démontre qu'en fait, ce n'est pas une femme, mais un homme.
Mais non, c'est tous les ex, il peignait ses ex pour les draguer. Il fait pareil, Jean-Pierre.
C'est le fameux Salah, et c'est ça.
Salah, oui.
Voilà. Salah. C'est le fameux Salah qui était son assistant peintre lui-même, d'ailleurs.
Entre autres, assistant peintre. Il lui tenait le pinceau.
Mais d'ailleurs, dans la fameuse série Leonardo, on ne fait pas du tout abstraction de son homosexualité.
Mais tous les grands génies sont pédés.
Oui, mais tous les PD sont pas des grands génies.
C'est pas un palindrome.
C'est un anus cyclique.
C'est un anus cyclique.
Ah oh bah non, mais j'aurais pas
c'est
mis
pas fini,
alors là, franchement, j'aurais pas mis 450 millions de dollars pour que ce soit aussi peu ressemblant.
Et pourtant, vous les avez.
Vous me direz que Jésus est pas venu poser en même temps.
Qu'est-ce qu'elle fait, la dame?
Elle croise les doigts, la dame. Pourvu que ce soit Jésus.
Mais j'ai honte.
Moi, non,
qui ai fait ma communion, qui ai été baptisé, qui croit encore. Je rentre dans toutes les églises, moi, vous savez.
Allez, à l'étampe, il y en a quatre.
Ah non. Parlez-moi de Rome, de Venise, de... Ah non, je suis déçu. Monsieur Ferrand, là, vous m'avez brisé un rêve, un monde. Non, mais il s'est fait avoir, Mohamed Ben Salman, là, franchement.
Ah bah là, oui. Hein.
MBS.
Oh, même Picasso, il aurait fait un Jésus mieux que ça.
Ah oui.
C'est vrai que c'est parce que tout le monde, en ce moment, est en train d'aller sur Internet voir la tête qu'a ce tableau,
mais oui,
en fait.
Mais oui,
parce que vraiment, mais alors...
C'est sûr.
En fait, je connaissais et le nom et le tableau, mais pas les deux ensemble.
Et là, vous avez dit pourquoi ça s'appelle Salvatore alors que c'est une gondesse. Ouais,
ben oui. Salvador Adamo, là, il y a.
Adamo.
Ah non, Adamo, il a des poils.
Là, c'est Salvatore Obamo, hein.
Ouais, alors là, c'est terrible.
Non. Ça fait quand même 65 cm sur 45.
Ah, ouais, ça fait mal.
Qui est grand pour un Jésus.
Ça fait une toute petite croix, hein.
Pas très grand.
C'est vrai que ça
tient sur tomber. Une toute petite croix.
Ça peut être douloureux.
Ça se met sur un mur, hein.
Franchement, je suis désolé, monsieur Ferrand, mais il y a un petit détail.
Mais moi, j'y suis pour rien.
On dirait qu'il y a une poitrine.
Non, mais il y a un petit détail supplémentaire que j'avais pas vu, que je m'aperçois. Quand on regarde bien. Jésus avait les cheveux longs, certes. Une barbe, certes. Bon, la barbe, on a déjà dit, c'est pas normal.
Mais du rouge à lèvres.
Il y a beaucoup de Jésus, un berbe à la Renaissance.
Mais regardez. Il a en plus des bouclettes. C'est-à-dire qu'en bas des cheveux, il a pris son fer à friser.
Mais en fait, c'est une photo de Lorraine Gall, c'est...
C'est Valérie Mérès.
Alors, si on veut essayer de défendre ce pauvre Léonard Vinci, je vais faire ce que je peux. Oui. Je pense que l'intention était de montrer que ce personnage est tellement divin, il est tellement total, il englobe tellement le monde qu'il n'est ni masculin ni féminin.
Mais oui,
il est entre les deux.
Il est voilà.
Ah, il est Yel.
Il est
non binaire.
Ah oui,
il est... Ben, c'était ce que voulait montrer Léonard.
Jésus est non binaire.
Puisque c'est ça, j'irai pas sur son yacht à Mohamed Ben Salman. La valise. Vous ne m'en voudrez pas, Valérie Mérès, mais vous n'avez pas de chance.
Ah non, mais à chaque fois, il y en a une autre. Hein.
Quand c'est pas Ariel Dombal, l'essentiel, c'est que vous triomphassiez au théâtre.
Bien sûr.
Je ne sais pas si ça se dit, ça, non
oui,
plus.
Oui, c'est bien.
Encore est-il fallu que vous triomphassiez.
Oui. Ah, c'est vrai.
C'est le subjonctif passé de triompher, c'est bien
ça. Ah, bah, c'est pas passé, c'est actuel.
Ah oui, mais on peut le mettre dans une sorte de surconditionnel.
Bien sûr, l'essentiel est que vous triomphassiez.
Il dit n'importe quoi depuis le début, donc faites attention.
Parce que je ne peux pas faire autrement que confier, évidemment, la valise RTL à la reine des tempes.
Ah oui.
Des tempes grisonnantes.
Julie Leclerc. Mais bon, vous allez choisir le numéro, moi, Valérie.
Ah bah, voilà, 8, hein.
Le numéro 8. Superbe. On va appeler Guillaume Fourreau, qui habite à Langeais, dans l'Indre-et-Loire. Voilà,
une destination possible. Un beau week-end, ça.
Bon, ah, oui. Ça. Julie, d'aller voir Langeais.
Ah oui, Langeais, je connais.
Non. Monsieur Fourreau va-t-il décrocher?
Non. Guillaume Fourreau n'est pas disponible pour le moment. Merci de laisser un message après le bip.
Bonjour Guillaume, vous avez perdu, au revoir.
Si vous souhaitez le modifier...
Bah t'es fourré où Fourreau? Où t'es fourré Fourreau?
Ah Fourreau.
Fourreau, vous avez perdu.
Dommage.
Un autre numéro.
Allez,
Julie, 17. Valérie, 17. L'une ou l'autre. 17. Xavier Ferrari, le numéro 17.
Ouh.
Il habite à Niort, dans les Deux-Sèvres.
Il est assureur, d'ailleurs.
Le fils de Lolo.
Il habite Villers-Sexel, rue Villers-Sexel.
Sexuel ?
Sexuel, à Niort. Ça sonne chez Monsieur Ferrari.
À Niort.
Allô,
Xavier ?
Oui.
Bonjour Xavier, c'est une radio de Paris qui vous appelle là.
Oh, une radio de Paris.
Oui. Oh, radio Paris mort, Radio Paris mort, Radio Paris est allemand. C'est une radio de Paris qui vous appelle. La France est libre et vous écoute.
Une radio de Paris.
C'est une radio de Paris, monsieur. La radio de la France.
Alors, c'est Balzac 15-15.
Alors, qui vous appelle? Vous avez dû trouver là depuis.
J'ai un peu l'impression que c'est Julie Leclerc et je suis au Grottet sur la
tête. Et
voilà.
Mais comment vous me connaissez?
Ah, parce que je suis allé en week-end à Camp.
Je vous connais parce que je vous écoute depuis que Laurent est arrivé sur RTL et que je suis passé chez vous quelques fois dans le public.
Ah, vous l'avez vu en plus.
Ah, vous êtes venu nous voir ici à Neuilly-sur-Seine.
J'étais encore là, on est quel jour aujourd'hui?
On est jeudi.
Ouais.
J'étais là lundi et mardi.
Eh ben, je me souviens très bien de vous.
C'était le beau gosse du premier rang. On a couché ensemble mercredi.
Exactement.
Pour une fois que vous montez dans une Ferrari.
Comment vous faites pour venir de Niort jusqu'à Paris?
J'ai déménagé le mois dernier.
Vous êtes à Paris maintenant.
Donc vous n'êtes plus à Niort.
Mais non, parce qu'on s'est mis ensemble. Eh bien, vous allez gagner.
Alors, vous habitez où maintenant?
J'habite à Paris, dans le 12e arrondissement.
Ah, bah c'est
Bah alors, Xavier.
D'accord.
Il est temps quand même que Julie vous pose la question.
Mais enfin, qu'est-ce qu'il y a dans la valise et quel est le montant du chèque?
Écoutez, ça fait 6 ans, 7 ans que je vous écoute et je redoutais cet appel.
Dites pas que vous l'avez
pas. Bah, si, je l'ai, mais je sais que la valise a été gagnée hier.
Ouais.
Et donc j'ai noté ce que vous avez rajouté dans la valise hier, mais je suis sûr que quelque chose a été rajouté depuis.
Eh oui.
Et voilà.
Allez-y.
Que je redoutais.
Allez-y quand même, alors.
Moi j'ai noté quand même 1063 euros.
Oui.
Et un séjour de 2 nuits à l'Océania pour 2 personnes.
Voilà. Oh là là,
Hier soir à un moment donné précis.
Ça, on ne dit rien, on n'a pas le droit.
Hein. Ah oui,
on peut donner, mais si on réfléchit bien,
si
hier soir à un moment donné précis, il a été ajouté quelque chose dans la valise RTL.
Qui correspond à ce moment, c'est ça, c'est intéressant.
On n'en dit pas plus, on n'a pas le droit.
Est-ce que ça ne serait pas quelque chose de chez Dorstel, par exemple?
Dans la valise, mais vous rigolez.
Il a l'air chaud, Xavier.
Remarquez, il nous l'a mise bien profonde, alors ça peut être Dorstel.
Depuis qu'il a quitté Niort, il est venu à Paris pour y aller.
Donc vous êtes monté à Paris, pourquoi, Xavier?
Pour le sexe, Laurent.
Ah, c'est...
Là, je suis monté pour le travail, pour le travail.
Je comprends mieux pourquoi il a reconnu Julie tout de suite.
Ah là là, mais on a des auditeurs extraordinaires.
Ouais, c'est bien.
On a des auditeurs fabuleux.
Je suis plutôt du côté Jean-Phi, Christophe, Laurent, plutôt que Julie. Désolé.
Je le disais. Mais vous savez, à partir d'un certain âge, on ne voit plus la différence, donc Julie, ça peut marcher.
Et ça peut plaire à Gérard.
Oui. Non, mais vous ne pouvez pas me dire ça. Vous ne pouvez pas me dire qu'il y a un truc qui a été rajouté hier. Je redoutais, j'étais sûr qu'en plus, vous
alliez mettre. On a rajouté quand même.
C'est ce qu'on va faire. On va vous offrir des places pour le théâtre.
Bah oui.
Vous allez, puisque vous êtes à Paris, vous allez venir applaudir Jean-Phi Janssen.
Et le voir dans sa loge.
Voilà.
Bienvenue.
Moi aussi, je rajouterai quelque chose dans la valise. Il va rajouter quelque chose dans la Ferrari.
Ah, vous êtes déjà venu. Vous êtes déjà venu au bouffe.
Je suis déjà venu un soir, vous étiez là d'ailleurs.
Au théâtre.
Oh là là. Mais je pense que cette personne vous poursuit, Laurent. Je pense que
l'angoisse.
Ça
et vous êtes qui, Xavier?
Je suis ton père. L'angoisse. Et j'ai emménagé en face de chez vous, Laurent.
L'angoisse. Ce type est dangereux, je pense.
Angoisse man.
Vous me laissez quand même une chance de deviner ce qui a été rajouté ou pas.
Ah bah là, un peu tard quand même.
Il a dit Dorstel.
Alors quoi d'autre? Vite fait.
Non, mais je sais pas. Il y a peut-être la gamme de chez Mademoiselle Agathe.
Non.
C'est un vrai fidèle.
C'est un ballon, vous ne pourrez pas trouver, c'est du football. Un ballon de foot collector, Adidas, de la Ligue des Champions qui a été ajouté à la mi-temps. Voilà pourquoi c'était peut-être trouvable si vous avez regardé le match hier soir ou si vous avez écouté évidemment les commentaires sur RTL.
Oui, là, le moment précis, c'était le match de foot, c'était pas autre chose.
Oui.
Vous êtes un peu trahi quand même.
Bah écoutez, en tout cas.
Perdre la valise pour du foot, c'est très moche quand même.
Bon, en tout cas, c'est perdu. Une montre RTL. Et puis, on va vous gâter avec... Enfin, quand je dis vous gâter...
On va vous gâter.
Oui, c'était le mot.
Ça, c'est la maison.
Ça, c'est Jean-Pierre. Ça, c'est Jean-Pierre qui s'en occupe. Hein,
petite ouais. Gâterie, Xavier.
Voilà.
Petite
gâterie, ça va très bien.
Avec l'almanach des grosses têtes.
Ouais.
Et j'en passe. Et des meilleurs. J'ajoute dans la valise RTL pour les prochains auditeurs que nous appellerons Bob le mini lave-vaisselle.
Ah ben ça aussi c'est bien pour vous Xavier.
Il vient d'emménager. Il vient d'emménager.
Il s'appelle Bob le nouveau.
Oh dis donc c'est un palindrome.
Alors vous avez 24 couleurs différentes. Il est ultra design, ultra compact. On le pose sur l'évier Bob le mini lave-vaisselle.
Ah oui on n'a rien dedans. Oui, ouais.
Idéal pour les petites cuisines ou les foyers pour deux
Mais
personnes.
C'est peut-être bien pour Xavier. Hein.
Bob peut accueillir des assiettes jusqu'à 29 cm.
Ça rentre dans Bob.
Durant Bob.
Ça rentre dans Bob. Ça rentre tout juste dans Bob.
Bob est le plus rapide du monde. 20 minutes.
Ah ouais. Ah ouais.
C'est 20 minutes pour 29 cm. Bravo Bob.
Autonome, il se remplit comme une machine à café.
Et il se vide aussi après. Hein.
Avec 3 litres d'eau.
Ah, quelle horreur.
Oh, c'est dommage, hein, Xavier. Hein.
Quelle horreur.
Économe, 3 litres d'eau sont utilisés contre 15 litres dans un vrai lave-vaisselle.
Ah oui, c'est... Ah, oh là là.
Ben oui, mais en même temps, tu peux laver qu'une assiette. Hein.
Le mini lave-vaisselle Bob est conçu et fabriqué en France et en vente dans les magasins Boulanger. Bob, le mini lave-vaisselle, est dans la valise RTL. Au revoir, Xavier.
Mais qui est l'invité mystère ? On cherche sur RTL.
Bienvenue aux grosses têtes, invité mystère. Pardon, hein, on vous a fait patienter, mais on a fait une valise importante avant.
Oh oui.
Oh que oui.
On vous a déjà appelé pour la valise RTL, invité mystère ?
Non, jamais.
Jamais. Bienvenue en tout cas aux grosses
Merci.
Têtes. Je vous livre aux questions de mes camarades.
Avec plaisir.
Une femme ?
Non.
Vous êtes donc un homme.
Un homme.
Est-ce que vous regardiez le match de foot hier soir ?
Non.
Est-ce que vous connaissez depuis plus de 10 ans, invité mystère ?
Ça fait
10 ans. Ça va faire 10 ans.
Ça va faire 10 ans. Est-ce que vous avez de la barbe ?
Oui.
Ah, vous n'êtes pas Jésus, donc.
Est-ce que...
Parce que notre Jésus, nous, il n'a pas de barbe.
Il n'a pas de barbe. Il est rasé de près.
Vous êtes parisien, invité mystère ?
Non.
Est-ce qu'on connaît la région dont vous êtes originaire ?
Oui.
Ah, est-ce que vous avez un accent lié à cette région, un petit peu ?
Possiblement.
Ah.
Oh, oui. Je n'ai jamais...
Léger.
Je ne l'ai jamais remarqué à ce point. Voici en tout cas un premier indice. Double indice, n'est-ce pas, invité mystère ?
Absolument.
Est-ce que le matin est important pour vous ?
Oui.
Et est-ce que vous parlez la langue des signes ?
Mais c'était pas ça l'indice.
Ah, c'est pas l'indice.
L'indice, c'est à la fois le chanteur et aussi, on va dire, le signe en quelque sorte.
D'accord. Ah. Vous-même, il vous arrive de pousser la chansonnette ?
Non.
Vous avez travaillé
vous voit
avec...
le matin ou on vous écoute le matin ?
On m'écoute, non ? On ne voit pas non plus.
Est-ce que le stylo est important pour vous ?
Oui.
Ah, on vous lit le matin, alors.
C'est pas bien de piquer les questions d'Ariel Dombal. J'en suis en scène.
Alors, est-ce que vous écrivez des livres, invités ?
Oui.
Voici un deuxième indice musical. Jackson nous sert sur un plateau le deuxième
alors là,
indice,
oui.
N'est-ce pas, invité mystère ?
Absolument, là, tout est dit.
Vous écrivez des romans policiers ?
Oui.
Valérie Mérès propose David Fuenkinos. Vous n'êtes pas David Fuenkinos.
Non.
Julie, pensez à Maxime Chattam.
Ah, oui.
Non plus.
Est-ce que vous êtes marié ?
Oui.
Et est-ce que votre épouse est également quelqu'un de public ?
Non.
Florian Gazan proposait Michel Bussy. Êtes-vous Michel Bussy ?
Non plus.
Ah, c'est dommage.
Voici un autre indice.
Genève sous la neige. C'est comme je n'ai endormi, ça fait pas de pluie. Je n'ai au printemps, telle sa lève qui tombe tout le temps. Quand il y a beau temps, les tulipiers de l'Athénée donnent en premier comme le signal d'une embardée de giboulées. Pital jura qu'est face à toi. Comme une armée de petits soldats,
Marie Laforêt qui chante Genève, ou bien, voilà un bon indice encore, évidemment. Monsieur Ferrand propose Guillaume Musso, vous n'êtes pas Guillaume Musso. Christophe Beaugrand vous a identifié, bravo Christophe. Et Valérie Mérès aussi.
Tandis, les intellos.
Tandis que Jean-Phi... Alors Jean-Phi a dû rien comprendre à quelqu'un qui lui a soufflé. Parce qu'il propose Véronique Dicker. Alors là, écoutez...
Bon, là, le problème, c'est que voilà, voilà, du coup, on, tout le monde a un peu la réponse.
Merci, Laurent.
Alors là, franchement, monsieur... Non, monsieur Janssen, vous devriez avoir honte. Voici encore un indice. C'est une musique d'un générique, puisque un de vos livres a été adapté en série, n'est-ce pas, Invité Mystère ?
Absolument.
Et Florian Gazan vous a identifié, lui aussi, Monsieur Ferrand aussi, Monsieur Ferrand.
Ben,
faut me tendre le petit mot, Julie Leclerc. Non, il n'y a que Monsieur Janssen qui me met maintenant Joseph Dicker.
Bon, ben, ça se rapproche. Quand même.
Michel Dicker.
Michel Dicker sur le canapé rouge.
Non mais enfin monsieur, mais... qui vous souffle dans le public?
Mais je ne sais pas, n'entendez-vous.
Ils entendent mal. Hein.
Alors ça y est, cette fois il a le vrai prénom. Bon, il écrit mal, hein. Il écrit toujours Dicker, D-I-C-A-I-R-E, mais enfin bon, c'est pas très grave. Un autre invité mystère, c'est...
Joël Dicker.
Joël Dicker, était bien.
Merci, bonjour.
Notre invité mystère... À l'occasion de la sortie de l'événement littéraire de la semaine, parce que c'est le cas à chaque livre que vous publiez, Joël Dicker, cette fois c'est l'affaire Alaska Sanders. J'ignorais jusqu'à cette semaine, parce que je n'avais pas lu trop de papier jusque-là, que c'était la suite de l'affaire Harry Kéber.
Absolument, c'est la suite, bon, qui peut se lire sans avoir lu Harry Kéber avant, mais c'est la suite qui finit en une trilogie que j'ai commencé avec Harry Kéber qui était le tome 1, Le livre des Baltimore, qui était le tome 3, et du coup, j'ai fait le tome 2 maintenant.
Alaska Sanders, c'est le nom de la victime, si j'ai bien compris.
Oui, absolument. C'est une jeune femme qui avait tout pour faire une carrière au cinéma. Sa carrière commence, on imagine qu'elle va partir à Los Angeles ou à New York, et pas du tout, elle se retrouve à bosser dans une station-service d'une petite ville, d'un petit bled du New Hampshire, où au bout de quelques mois, elle va être assassinée. Un policier, Perry Gallowood, va mener l'enquête, va arrêter un coupable qui va avouer le meurtre et incriminer un de ses amis.
Vous nous racontez tout le livre
non, là, je vous raconte la page 5.
Vous pouvez lui faire confiance, c'est les trois premières pages.
C'est vrai que c'est toujours assez riche.
Ouais, comme il y a 1300 pages, ça va être long.
Et 11 ans après, retournement de situation, Perry Gallowood, que vous avez peut-être connu dans mon autre livre, La vérité sur l'affaire Harry Kéber, reçoit une lettre anonyme qui lui dit que le bouclage de l'affaire n'était pas le bon, c'était pas ce qu'il pensait, et il va être aidé par son copain, Marcus Goldman, d'où la chanson avant.
Voilà le lien, parce que c'est le retour de Marcus Goldman, qui lui aussi était l'écrivain de ce premier roman, c'est pas tout à fait le cas, mais de ce premier roman à succès qui vous a fait connaître, l'affaire Harry Kéber. Il paraît que quand vous commencez à écrire, vous ne savez pas vous-même qui a tué.
C'est le plaisir que j'ai, c'est de pas savoir. Bah, je me dis, si je sais qui a tué, j'ai pas besoin de faire ce
Vous avez qu'à le lire.
Mais alors du coup, vous
non, rendez mais c'est compte... intéressant, moi je trouve ça...
Mais vous vous rendez compte à quel moment qui a tué? Au milieu du livre, vous dites, bon là maintenant, il va falloir que je décide.
Ouais. Non, plus tard, ça peut être tard dans le livre.
Ah ouais.
Mais qui c'est qui vous le dit?
Bah, c'est le coupable.
C'est drôle, ça.
Vous vous laissez porter par votre histoire, en fait.
C'est le plaisir de ne pas savoir.
Et l'avantage, c'est vrai, qu'il y a cet écrivain Marcus Goldman dans votre livre, c'est qu'il y a un peu de vous, au fond.
Ben, je sais pas, oui et non.
Ah,
parce
que... quand même, quand il fait ses signatures, quand il se déplace, quand...
C'est vrai, non, il y a forcément un peu de moi.
Quand
et
il,
un
a,
peu
du
aussi.
Quand il a du succès, j'en prends pour preuve la première partie qui s'appelle Des conséquences du succès, j'imagine qu'il y a un peu de vous là-dedans.
Il y a un peu de ma perception, mais c'est quand même un personnage qui est différent de moi et qui a, quand je l'ai inventé en 2010, il avait 3 ans de plus que moi. Et comme ce livre est la suite de Harry Kéber, moi j'ai pris 12 ans et lui a pris quelques mois de plus.
Mais c'est vrai par exemple, je vois là ce passage où il y a un producteur qui vous propose un contrat pour adapter le livre, pas vous, qui propose à Marcus Goldman d'adapter son livre. Il dit, c'est 2 millions de dollars rien qu'à la signature pour vous. Vous gribouillez votre nom en bas d'une page et paf, 2 millions de dollars tombent sur votre compte en banque. Ouais. Et ça, c'est sans parler de l'intéressement sur les bénéfices du film et tout le reste. Et malgré ça, il dit non. C'est vous, ça vous diriez non pour deux...
Oh non, il a dit oui.
Il a dit oui. on a vu le film, on a vu la série, donc il a dit oui à un moment donné.
Vous savez que Bernard a refusé ça. Mon éditeur, Bernard De Fallois, avait refusé à l'époque un contrat assez similaire, parce qu'il disait le film va être mauvais, ça va être nul, il m'a dit, il vaut mieux pas de film qu'un mauvais film. Et paf.
Cet éditeur qui vous manque, aujourd'hui on le sait parce qu'il n'est plus de ce monde, et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs vous avez créé votre propre maison d'édition.
Oui, à son décès, il avait laissé, dans ses volontés, il voulait que la maison ne lui survive pas, que sa maison d'édition ne lui survive pas, et donc par fidélité pour lui, je me suis dit qu'après cet éditeur-là, il n'y en aurait pas d'autre, et j'ai donc créé ma maison d'édition, Rosier et Wolf.
Alors, comme Éric Zemmour, mais c'est la seule ressemblant
à Rubempré, tu veux dire.
Oui. Lui, c'est Rubempré.
Mais c'est parce qu'il n'en avait pas d'autres.
Alors, justement, il faut quand même expliquer d'où viennent ces noms, Rosier et Wolf. D'où vient le nom de cette maison d'édition ?
Rosier et Wolf, c'est difficile de trouver un nom pour une maison qui naît parce que vous voulez quand même qu'il y ait une identité. Et en même temps, je ne pouvais pas l'appeler de mon nom à moi parce que ça aurait été un peu étrange. Et j'ai eu envie de raconter deux personnes qui ont été chères dans ma vie et qui m'ont donné envie de lire et écrire. Rosie, une amie de la famille, qui m'a poussé à lire. Et Vladimir Wolf, qui était mon grand-père, qui a écrit un livre à la fin de sa vie. Et j'ai le souvenir enfant d'ouvrir ce manuscrit et de dire est-ce que je pourrais moi aussi un jour écrire autant de pages et autant de mots.
Vous faites une tournée comme un artiste sur scène avec votre livre. J'ai les dates là, c'est assez incroyable. Là, vous êtes sur Paris ces jours-ci pour des séances de signature et des rencontres avec votre public. Mais vous allez enchaîner là au mois de mars Lyon, Bruxelles, Charleroi, Lille, Angoulême, Bordeaux, Neuchâtel, Rennes, Brest, Quimper, Vannes, Nice, Fréjus, Sion, retour à Paris, Le Havre, Rouen, Nancy, Strasbourg, Metz, Mulhouse, Nantes. Non mais c'est fou!
Tout ça. Ben oui, puis c'est une immense joie. Vous savez, mon dernier roman est paru pendant le confinement, donc je ne suis pas allé en librairie depuis 2018. Ça fait 4 ans que je n'ai pas vu mes lecteurs en vrai, que je n'ai pas signé de livre avec eux, et je me réjouis de les retrouver.
Vous êtes à combien de livres vendus? Moi, je suis curieux, parce que vous êtes traduit en...
Avec mes parents, ma grand-mère, on doit être à 5 ou 6.
Non, mais c'est gigantesque.
Non, dans le monde, 12 millions.
Les indices, autant vous le dire, ben voilà, vous avez compris, Goldman, on vient de l'expliquer, j'avais évidemment choisi cette chanson, il suffira d'un signe en référence au signe du lac Léman, évidemment.
Oui, absolument.
Voilà, d'où la raison aussi de la chanson de Marie Laforêt, Genève, parce qu'il faut rappeler que, effectivement, vous êtes suisse.
En plus, pour en le pognon, imagine le truc. On passe à côté d'un truc énorme.
Tu m'étonnes qu'il a monté sa maison d'édition. Il a juste une photocopieuse pour imprimer et tout.
Il est malin.
Pas besoin, évidemment, d'expliquer Thriller, la chanson de Michael Jackson, et puis la musique générique qu'on avait pu entendre, c'était la musique de la série La vérité sur l'affaire Harry Quebert, tirée de votre best-seller. C'est Jean-Jacques Haneau, hein, c'est
Jean-Jacques
ça
Haneau.
Qui avait adapté. Absolument. Il était ce matin dans les murs.
Il fait un film extraordinaire, là, Notre-Dame brûle.
Notre-Dame brûle. Mais l'actualité de Joël Dicker, c'est cette affaire Alaska Sanders dans toutes les bonnes librairies. C'est chez Rosie et Wolf. Je le prononce bien?
Parfaitement.
Rosie et Wolf, le nom de l'éditeur. Merci, Joël Dicker.
Merci, merci à vous. Merci beaucoup.